Polysécure, 600e épisode. Merci à tout le monde qui se joint à moi pour célébrer cet épisode-là. C'est un très grand honneur pour moi de vous avoir autour de l'écran. On est dans un contexte virtuel. Pour l'occasion, j'ai décidé d'aborder un sujet qui, lors du Sécure, Guillaume Ross et Olivier Bilodeau se sont chamaillés un peu sur un élément mentionné, sur le fait que sur un peu leur façon d'aborder le risque dans leur vie personnelle, ce qu'on appelle aussi OPSEC, la façon qu'on gère dans nos vies la sécurité numérique. Et il y a eu un échange intéressant par rapport à ce type de choses-là. Donc, j'ai décidé de vous rassembler, mes 8 personnes autour de moi qui ont des backgrounds excessivement différents. Et justement, c'est ça la beauté de de vous avoir rassemblés. C'est qu'on a tous des obstacles différents, on a tous des zones de tolérance au risque qui sont différentes et on va pouvoir échanger un peu sur le sujet, sur nos bons coups personnels et nos moins bons coups personnels par rapport à ce genre de choses-là. Et pour mettre aussi en perspective, parce que beaucoup d'entre nous, on est vertueux, disons, ou on essaie d'être vertueux face à nos clients. Et dans la réelle, généralement, on n'est pas tant vertueux dans notre vie personnelle. Et c'est un peu de mettre ça en perspective aussi qu'on a des vraies vies, on est des vrais humains. Et on est comme tout le monde, on a des moments un peu plus faibles que d'autres. Je vais commencer par présenter chacune des personnes et ils vont faire une courte introduction sur leur vision de ce que c'est l'OPSEC ou leur tolérance au risque, leur gestion de risque numérique. Puis après ça, on va embarquer dans une conversation, j'ose espérer, très intéressante sur ce que c'est. Je vais commencer avec Vincent.
Oui, ben merci de m'avoir invité. Ça fait extrêmement plaisir d'être ici. Donc, Vincent Millet, ça fait plus de 15 ans, proche 20 ans que je suis en sécurité de l'information. Je suis actuellement gestionnaire chez Air Canada dans l'équipe de gouvernance, risque et conformité. Ça fait 4 ans que je suis là-bas. Donc, voilà. Merci.
Oui, et ton regard sur le risque de façon personnelle aussi.
Oui. J'ai une perspective assez... Dans mon travail, j'applique une perspective d'affaires. Donc, j'ai beaucoup le penchant, faut faire de la business, donc il ne faut pas trop bloquer les choses. J'applique, je dirais, le même principe dans ma vie personnelle. Donc, oui, je comprends les puristes puis ceux qui se protègent de tout, qui veulent vraiment pas que leur identité se promène. Ça, je trouve ça décevant, en fait, la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Mais ceci dit, je considère qu'on peut pratiquement pas éviter certains éléments. Sinon, le côté pratico-pratique de l'Internet puis de toutes les options mobiles, etc., je trouve qu'on perd énormément en flexibilité à ce niveau-là. Donc, personnellement, j'utilise une approche très diversifiée à comment j'utilise mes appareils. Comme un peu tout le monde, j'ai des VPN, j'utilise plusieurs navigateurs, dépendamment des contextes, dépendamment de ce que je décide de faire, que ce soit du magasinage ou autre chose. Là, des fois, juste changer de navigateur, des fois, ça a un impact sur les prix qu'on voit. Donc, j'utilise toutes sortes de tactiques différentes. Puis, j'ai des jeunes enfants, une femme à la maison qui est pas très technologique, qui se pose encore la question, je pense, qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, faut rendre ça assez simple pour tout le monde. Puis, je reste assez terre à terre par rapport à ça.
Cool. Merci, Guillaume.
Oui, salut, moi c'est Guillaume, merci de m'avoir invité pour le 600e. Donc, un peu comme Vincent, ça fait super longtemps que je suis en sécurité puis en technologie. Je dirais que j'étais là-dedans même avant de travailler, disons. Puis côté sécurité au niveau personnel, tu sais, il y a des choses où je pense que je suis vraiment très, très attentif, comme par exemple tout ce qui est garder des systèmes à jour. Tu sais, je suis pas le genre de personne qui va installer un update de macOS deux jours après qu'elle soit sortie. Tu sais, je vais attendre comme 20 minutes, voir si quelqu'un a une catastrophe quelque part. Puis après ça, je l'installe. Mais qu'est-ce que ça demande pour pouvoir faire ça? D'avoir toujours des vraiment bonnes sauvegardes, parce que tu es toujours à risque de peut-être faire une erreur qui va qui pourrait causer une perte de données. Fait que je dirais, les sauvegardes, le chiffrement des données, tu sais, j'ai vraiment pas beaucoup de données qui sont pas chiffrées end-to-end, que ça soit localement ou dans le cloud, puis tout ça. Mais il y a d'autres choses où ce que ça m'inquiète vraiment pas, tu sais, comme on vient de parler de VPN. Si j'utilisais un VPN, ça serait parce que je download des torrents, pas parce que je voyage, pas parce que j'ai peur du Wi-Fi. J'ai peur du Wi-Fi de l'hôtel parce qu'il est lent. J'ai peur du Wi-Fi de l'avion parce qu'il marche mal. Tout ce que je fais est en TLS. Fait qu'au lieu d'utiliser un VPN, qu'est-ce que je fais? C'est chez nous. Je bloque les connexions sortantes pour, par exemple, POP3 puis IMAP sans TLS. Comme ça, si accidentellement je configure un nouveau laptop qui se connecte sur Gmail en IMAP sans TLS, ben ça marchera pas. Mais comme ça, je sais que quand je sors de chez nous, ben j'ai pas besoin de VPN, puis y a aucun problème. Mais des fois, à cause de, tu sais, j'ai mentionné les sauvegardes puis le chiffrement puis tout ça, des fois ça rend le recouvrement de désastres personnels un petit peu compliqué. Puis ça, c'est la partie qui me fait un peu peur des fois. Tu sais, j'ai pris l'avion une fois, puis j'ai pris l'avion une fois. Merci. Je sais que c'est impressionnant. Puis dans la même petit trade du TSA américain, j'avais mon Mac, mon iPad, mon iPhone, tu sais, tout un par-dessus l'autre. Puis là, je pensais à mon password manager, il est sur les trois, il est backupé dans un truc qui est chiffré avec un mot de passe qui est dans mon password manager. Puis là, je me suis mis à me dire, si quelqu'un me vole ce bac-là qui a mes trois devices dedans, ça va être une vraiment mauvaise semaine. Fait que j'essaie de m'améliorer là-dessus, parce que des fois, trop de sécurité, c'est pire que pas assez.
Tout à fait. Merci, Sam.
Oui, donc c'est ça, moi je suis sécurité adjacent, on pourrait dire, donc journaliste de travail, et c'est ça, co-animateur d'un balado qui parle justement de sécurité, là, avec Catherine, qui est ici aussi ce soir. Je dois dire que en termes de sécurité, je suis probablement un cordonnier mieux chaussé que quand j'étais médecin, parce que je suivais beaucoup moins les conseils quand j'étais médecin que je donnais aux gens qu'en sécurité. C'était même aucune comparaison possible. Fait que je pense que c'est assez intermédiaire, je dirais. C'est sûr que pour certaines affaires, un peu comme Guillaume dit, il y a des affaires, je sais que ça, tu sais, tout ce qui est mot de passe, tout est fait partout, tu sais, c'est bien intégré. On parlait de VPN. Moi, je l'utilise surtout parce que j'aime ça des fois cliquer sur des liens louches puis aller regarder l'infrastructure de gens bizarres. Puis c'est le fun à ce moment-là d'utiliser un VPN juste parce que sinon, ben, j'ai déjà checké mon adresse IP, a dit où j'habite là ou presque. Là, c'est malheureusement très proche de chez moi. Donc pour ça, je pense que ça vaut la peine. Et par exemple, pour beaucoup de recherches que je fais, par exemple sur les réseaux sociaux, ben j'utilise des comptes faits expressément pour ça. À un moment, j'ai abandonné parce que je sais que tu peux aller très loin là-dedans aussi. Mais tu sais, essayer d'avoir un numéro de téléphone anonyme là, puis good luck là. J'ai déjà essayé une fois. Tu achètes la carte SIM avec de l'argent cash, tu payes ton abonnement avec de l'argent cash, tout. Mais c'est l'enfer là. Fait que après ça, je me dis ben c'est pas grave là. Le gouvernement va savoir que c'est moi qui a acheté ça. Il y en a pas de problème. Donc c'est ça. Faut aussi peser des fois le pour et le contre, puis pas virer fou.
Très, très intéressant. Puis ça, justement, ça amène le volet du journalisme d'enquête qui est particulier aussi, qui amène un angle dans lequel même en sécurité, on ne fait pas vraiment. Dominique?
Eh ben, merci, Nicolas, pour cette invitation. 600, quand même, ça se fête. Merci. Je suis très, très honoré de faire partie de ce panel de discussion. Moi, je travaille en cybersécurité. Vous avez peut-être déjà entendu, on a déjà eu des échanges avec Nicolas. J'accompagne les entreprises dans leur parcours de cybersécurité en tant que VCISO et j'ai la chance de voir des choses à faire, des choses des fois bien, des choses à faire attention. Donc, ça me permet d'avoir énormément de visibilité et puis de donner des conseils aux clients. Malheureusement, je suis pas mal dans le mode « faites ce que je dis parce que je fais ». Et moi, je suis quand même un peu pourri dans mon obsèque là. Je vous écoute parler entre Vincent, Guillaume, Sam, qui ont déjà parlé. Moi, je me trouve un peu pourri, pas tant que ça, mais je me dis que dans mon obsèque, il y a des moments donnés, ben, quand il faut accéder à quelque chose, on va y aller peut-être un peu plus vite, on va retirer son attention, puis il faut que ça fonctionne. Puis, comme on est des humains, hein, on a de l'humanerie, donc Je pense que c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. En même temps, je complexe un petit peu moins sur certains aspects depuis que j'ai entendu Guillaume parler des mythes en technologie. Donc du coup, des fois, je complexe un petit peu moins, ça m'aide à vivre. Mais j'aimerais, je m'imagine, en tout cas, les conseils que je donne, je devrais me les appliquer plus souvent moi-même.
Oui, merci Catherine.
Bonsoir. Je suis contente d'être avec cette belle brochette de gens-là. Donc, moi, ça fait un peu moins longtemps que certains que je suis en cybersécurité, ça fait 5 ans. Puis ma job, c'est principalement de convaincre les gens de faire attention en sensibilisation. Et malgré ça, je suis honnêtement une conteneur extrêmement chaussée. En fait, mon obstacle personnel et mon cauchemar, là, si ça serait un client qui viendrait me voir avec ma situation. Puis une de ces raisons-là, c'est qu'avant d'être en cybersécurité, j'étais en marketing. Puis en marketing, c'est tout le contraire, la mentalité, c'est comment est-ce que tu peux être trouvé le plus facilement possible en le moins de clics possible. Donc tout le début là, de mon digital footprint, c'est comme moi qui bâtis le personal brand 4DG, puis qui s'assure de réserver ce nom-là sur toutes les plateformes, puis oh boy que je faisais des choses sur toutes les plateformes. Honnêtement, de googler 4DG, ça mène très rapidement à des résultats ultra cringy à partir de Google. De genre mon début vingtaine, dont un compte Twitch channel avec des vidéos, des moi qui raconte des choses. D'ailleurs, plutôt, on va probablement raconter des anecdotes puis des très mauvais coups, puis j'en ai un relié à ça qui est catastrophique. C'est sûr que là, tes mots de passe, MFA, etc., c'est des choses sur lesquelles je suis un peu meilleure. Thank God. Mais, tu sais, j'ai comme ce baluchon-là que je traîne, en fait, que je peux pas non plus juste faire disparaître. Fait qu'à un certain point, c'est, si on parle de gestion de risque, il y a la notion d'accepter le risque. C'est un peu un truc que je dois accepter dans ma propre, dans mon propre écosystème. Donc, définitivement, ne faites pas ce que je fais, s'il vous plaît. Mais bon, c'est un peu la situation avec laquelle moi je suis arrivée quand j'ai commencé à m'intéresser d'ailleurs là, à la cybersécurité, puis qui m'a menée à éventuellement essayer de dire aux gens justement, faites pas ce que j'ai fait, s'il vous plaît.
Allez ailleurs. Excellent. Merci, Alexandre.
Bonjour à tous. Merci, merci de nous avoir invités. Je trouve ça vraiment super. En effet, pour le 600e, c'est un beau numéro. Donc moi, je suis Alexandre Fournier. En fait, la partie cybersécurité, moi, je rattrape quand on s'est fait défoncer. Mon boulot, c'est de mettre en place des plans de continuité, des plans de gestion de crise, des plans de reprise informatique. Donc, toute cette partie-là, je suis plutôt très, très bon. Je rejoins un petit peu Guillaume qui disait tout à l'heure la cybersécurité. Enfin, trop de sécurité tue la sécurité. C'est un petit peu, en effet, mon approche. Ce que je m'aperçois, c'est que quand on met trop de sécurité, ben, il y a un moment ou un autre, on va soi-même se hacker parce qu'en fait, c'est chiant. Donc, par rapport à ça, moi, je me base pas mal sur le standard, ce qui est proposé par les outils. Je suis le standard d'actualiser mes affaires de façon automatique, d'avoir un mot de passe de 8, et puis maintenant, je vais passer un peu plus parce que c'est un peu has-been, 8 caractères de mot de passe, alphanumérique, avec le petit point d'interrogation, le point d'exclamation qui remplace le 1, enfin, le truc super standard que tout le monde sait. Donc, moi, ma vision là-dessus, c'est bien beau de faire de la sécurité, de mettre tout ça là, mais à un moment ou un autre, de toute façon, on se fait défoncer. Donc moi, ma vision, c'est être prêt, après qu'on soit fait défoncer, pour pouvoir tout reconstruire. Donc toute la partie restauration, conservation, récupération de données, là, c'est bien ma force. Au niveau des mots de passe, je pense que j'ai encore un petit peu de travail à faire par rapport à ça.
Très intéressant, merci. Stéphane?
Bonjour. Donc, ben merci encore une fois de l'invitation. Moi, je pense que je suis trop vieux. Tu sais, je prends un café puis j'ai peur d'aller aux toilettes. Puis c'est ça mon gestion de risque du moment. Je me dis, il me semble qu'avant de partir tantôt, je dis, avant qu'on débute, faut absolument aller aux toilettes. Là, à moitié du café, je suis toujours réalisé. Ou tu je me pousse pour aller là. Fait qu'attention à ce niveau-là. Mais c'est quand même la sécurité au niveau personnel et compagnie. Là, on s'entend de gestion du risque. On va faire une compétition, je pense, entre Dominique, moi, puis je sais pas, peut-être toi, Nicolas, si tu nous as dit tantôt du pire cas de comment qu'on gère à la maison et tout. Ça, je suis ciseau où ce que je suis. C'est sûr, au day-to-day, on parle de risque. Au day-to-day, on essaie de mettre des bonnes mesures. Au day-to-day, mais chez nous, je fais fuck all de vraiment clair, net et précis. C'est, oui, les bases, les mots de passe, puis des MFA, puis des bébés là, puis les votes à mots de passe et tout. Mais je vous écoutais puis je me disais, ouais, c'est vrai que mettons que je m'en vais en voyage puis que je, mettons que ce qui est dans iCloud, je n'ai plus accès puis que c'est comme effacé, qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas prévu ça. C'est une sorte d'affaire de même que j'ai pas prévu, puis c'est bien bizarre. Mais par contre, j'ai quand même prévu mon café, puis t'as la toilette. Continue là-dessus.
C'est une bonne gestion de base. C'est excellent. De toute façon, on a eu des échanges dans les podcasts précédents sur justement, tu t'es fait avoir sur des mails de phishing et ainsi de suite.
Jamais arrivé, ça. C'est une
déroulement. Non, mais justement, on a des enregistrements pour prouver le contraire. Heureusement, c'était pas vidéo quand le moment où tu t'es fait avoir sur tes mots de passe. Et on va finir avec Andréane.
Oui, allô. Merci de nous recevoir, Nicolas Lake. Moi, j'ai l'impression que d'avoir une bonne sécurité, ça veut dire devenir fou. Parce que c'est comme ceux qui vont au gym. Tu sais, il y a personne qui va au gym de manière modérée, là. C'est comme une fois que t'es rendu dans cette patte-là, ça fait juste descendre à partir de là. Fait que, j'ai l'impression que, ben, en fait, c'est la sécurité. Si tu veux vraiment être secure, faudrait que tu utilises un ordinateur une fois puis que tu le brûles après puis que t'en ailles un nouveau à chaque fois. Comme ça, t'es sûr qu'il y a vraiment aucune trace de toi nulle part. Tu sais, c'est juste pas praticable. Donc, je pense qu'il faut garder notre santé mentale. Puis pour rester sain d'esprit, il faut prendre les choses un peu plus à la légère que ça. Tout dépendant, on est qui, tu sais. C'est sûr que le premier ministre du Canada, je m'attends à ce qu'il prenne des meilleures décisions que peut-être nous ici sur ce panel. Donc, toujours bien considérer le risque, ça va être mon motto de base, OK? Mais j'aimerais dire qu'une de mes plus grandes vertus, c'est d'être très conséquente avec qu'est-ce que je dis puis qu'est-ce que je fais. Donc, au moins, je dis aux gens de pas trop capoter avec ça. Donc, je capote pas trop avec ça non plus. Mais j'ai quand même des obsessions de sécurité. Et c'est mes mots de passe. J'ai quand même une bonne gestion. Pas celle qu'on conseille nécessairement, mais ce que moi, je considère une bonne gestion de mots de passe. Donc, non, mes mots de passe se répètent pas. J'utilise pas nécessairement de password manager. Je le fais pour, mettons, la job, mais sinon, c'est vraiment une espèce d'algorithme que j'ai dans ma tête pour chaque password. Fait que ça, j'ai quand même une obsession. Puis, mon autre obsession, c'est mon identité sur Internet, à tous les sites qu'on va, il faut tout le temps se créer un compte là, pour aucune raison. Là, ils n'ont absolument pas besoin d'avoir toutes ces informations-là sur moi. Ça me fait capoter. Fait que cette identité-là, c'est vraiment. J'ai plein de noms différents, j'ai plein d'adresses courriel différentes pour ces cas-là où est-ce que la personne n'a pas besoin de savoir qui pour vrai. Donc, ça, c'est quand même une obsession que j'ai. Mais sinon, pour le reste, je suis assez laid back. Là.
Très intéressant. Oui?
Non, ben j'allais dire, j'ai oublié de me présenter, mais Andréane Bergeron, professeure associée à l'Université de Montréal et je travaille en cybersécurité là, pour Flair depuis. Je travaille en cybersécurité depuis 4 ans. Fait que ça fait pas si longtemps non plus. Là, mais, fait que je viens du commun des mortels, c'est ça qu'il faut retenir.
Ben, t'arrives du monde de la recherche. Clin d'œil, parce que tu disais, le premier ministre du Canada qui a un bon obsèque. Clairement, nos voisins du Sud n'ont pas ce même obsèque-là. Clairement, ils ne maîtrisent pas les B.A.B.A. de ça. Et ils seraient probablement des bons candidats pour venir parler de leur raté au niveau de leur obsèque. Mais on a... Oui?
Faut quand même le faire. Le président a son propre réseau social. Il réutilise pas ceux des autres. Il y en a un juste pour lui. Puis ça, c'est dur à battre comme obsèque.
Ça, je te donne le point. Mais bref, puis je vais faire comme les autres, je vais me présenter, je joue au jeu aussi. Puis bon, je suis l'animateur, hein? Cela étant, mon obsèque est pas très bon de façon générale. Je suis plus en mode réactif, c'est-à-dire généralement, il m'arrive un raté, puis je corrige après. Fait que je suis vraiment très comme ça. Je suis pas en prévention d'aucune façon. J'ai perdu des machines complètes parce que j'ai perdu la clé de chiffrement de la machine, puis un peu ce que Guillaume s'inquiétait, j'ai perdu la machine, j'ai perdu la clé pour perdre la machine. Maintenant j'ai des bons backups qui justement peuvent faire ce genre de choses là. Le tout est fait ou les clés Fido sont en utilisation réelle dans ma vie au moment où j'ai constaté que mon compte de banque était attaqué. Parce que je recevais des SMS à 5h du matin pendant que je faisais mon jogging. Fait que ça, j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que je suis vraiment en mode réaction. Fait que je suis pas celui qui est la meilleure façon. Puis je rejoins un peu certaines facettes de tout le monde, et notamment Andréane dit, capotez pas, prenez les choses qui sont à votre mesure. Si c'est contraire à ce que vous faites, perdez pas votre temps. Vous allez faire du mal à travers ça. Au moins, améliorer une étape à la fois. Fait que c'est un peu ma position. Fait que moi non plus, je suis comme moyen à travers tout ça. Cela étant dit, maintenant qu'on a fait le tour, la caisson de démarrage, puis j'ai bien aimé ce qui a été mentionné, puis d'ailleurs qu'un bel oiseau qui nous chante ça là, de façon magnifique. Quel est votre pire événement de sécurité que vous êtes arrivé? J'en ai nommé un, j'ai perdu mes disques durs au complet, puis ça a été un désastre parce que j'avais zéro backup, j'ai tout perdu. Ça, c'est mon exemple de démarrage où j'ai juste achifré, mais un peu comme un con finalement. J'avais pas de mesure de sortie, fait que je me suis peinturé dans un coin. Fait que je vous laisse quelqu'un qui veut lever la main puis commencer justement à proposer avec Catherine.
Mon histoire date, puis disclaimer de avant, que je travaille en marketing, en cybersécurité, donc s'il vous plaît, tenez compte du fait que j'étais très naïve à l'époque. Je l'ai mentionné, j'avais un Twitch channel, donc j'avais pris la mauvaise habitude d'indiquer à mes fans, à mes followers, qu'il y avait quand même une certaine quantité, là, il y avait quelques milliers de personnes qui me suivaient, genre, je m'en vais me prendre un café au coin, puis je viens vous rejoindre sur le stream. Puis, ouais, on a les visages. j'avais ma petite tasse de café pour emporter avec le logo du coffee shop, qui était pas une chaîne, qui était un petit endroit vraiment là, qui en a juste un sur le Montréal. Puis ça l'a pas pris de temps. Ou est-ce qu'il y a éventuellement quelqu'un qui avait décidé, qui s'était mis en tête, qui voulait trouver mon adresse, qui voulait trouver où est-ce que j'habite, qui, quand j'ai dit, j'avais un horaire qui était annoncé d'avance, les gens savaient que j'allais streamer, donc j'annonçais que je m'en vais au café, puis je vous rejoins sur stream. Ben la personne m'a un peu attendu au café, m'a suivi jusqu'à chez moi sans que je le sache. Puis là, ben l'appartement que j'avais, ben il y avait la fenêtre, il y avait comme deux appartements, soit que c'était comme en avant vers une certain côté de la rue ou en arrière vers la ruelle. Ma fenêtre était visible dans le stream, donc il a pu déduire exactement le numéro d'appartement et il a immédiatement texté dans le chat « Je sais où est-ce que tu habites » avec l'adresse complète.
C'est le son. Film d'horreur.
heureusement, la personne, c'est quelqu'un qui avait peut-être un peu des manquements au niveau des cues sociales. Il avait pas fait ça de façon néfarieuse. C'est pour lui, c'était vraiment juste un jeu où est-ce qu'il était content de savoir où est-ce que j'habite parce qu'on habitait proche. Puis il avait comme, c'était ludique. Fait que quand je lui ai demandé de garder cette information pour lui, de peut-être pas la reposter dans le chat à plusieurs reprises, il s'est tout de suite excusé. Puis finalement, il n'y a pas eu de conséquences graves. Mais définitivement, une leçon que j'ai apprise, de pas informer les gens sur mon horaire précise sur Internet et de peut-être pas m'afficher exactement comme un petit coffee shop spécifique. De où est-ce que je...
Wow! je suis un peu impressionné. Je sais pas comment j'aurais réagi à ta place, mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose. Moi, personnellement, j'interviens tout de suite parce que je réfléchis puis j'en trouve pas de moment où ce que j'ai vraiment pas eu, que j'ai eu un, on va dire une bourre. Là, j'invite pas tes auditeurs à me cibler, là. littéralement, j'ai pour mon dire, je pense un peu plus tôt, je pense que c'est Stéphane. Moi, quand je reviens du travail, j'ai pas le goût de perdre mon temps à configurer des machines puis à passer du temps à faire des setups de VPN puis de trucs comme ça là, complexes. Puis quand ça devient trop compliqué à maintenir, à soutenir, ben je perds l'intérêt. Donc, j'ai souvent investi dans des technologies puis dans des outils ou des appareils que je me dis ça va être simple, efficace, moderne. Puis quand j'arrive proche de la... Je vais dire la fin de vie d'un appareil, je le change. Fait que j'ai pas eu de problème avec mes backups. Moi, j'ai un NAS. Des fois, même, je me pose la question pourquoi j'ai un NAS? Parce que je me dis, j'ai pas tant d'affaires que ça qui sont à protéger. Puis là, ben, c'est un truc avec 5 disques. Puis je pourrais peut-être en avoir juste 2, je sais pas. Mais bref, je suis allé, c'est peut-être trop solide sur ce volet-là. J'ai des backups aussi sur dans le cloud. J'utilise une boîte de mots de passe. Donc, tout le monde, je pense qu'on utilise un peu toute la même chose. Par contre, je suis impressionné par Andréane qui retient ses mots de passe. Toutefois, la voûte de mots de passe, c'est pas quelque chose que je recommande à tout le monde. Je pourrais recommander à quelqu'un d'avoir un petit calepin. Par contre, faut que le calepin soit bien, bien protégé. Ou en tout cas limité d'accès énormément. Personnellement, j'en trouve pas de bourde, là, honnêtement. Mais mes informations personnelles se sont retrouvées plusieurs fois sur Internet à cause d'entreprises, pas à cause de moi, là. Donc, je pense que c'est inévitable, malheureusement, mais j'ai pas eu d'effets négatifs majeurs reliés à ça.
Ouais, moi, je pense, j'ai dit que j'étais pourri tout à l'heure, mais ne veux pas, on a des réflexes qu'on adopte. Et on aimerait en faire plus, mais elle a des réflexes qu'on adopte au quotidien. Moi, je me rappelle pas avoir... Mais en fait, celui qui n'a jamais perdu un backup, qu'il me jette la première pierre. Hein. On a tous perdu un backup un jour dans sa vie, hein, une disquette, une clé USB. Ah, il y a forcément un petit quelque chose. Moi, j'ai effacé le disque dur de la belle-mère. Je peux vous dire, dans les premiers temps, les discussions étaient un peu compliquées, par exemple. Je n'ai pas fait exprès. Ça arrivait, voilà. Mais on a des réflexes qu'on développe, puis on fait attention, on parle de voûte de mot de passe. Moi, j'ai 3 voûtes de mot de passe. On va dire, mais t'es malade. J'arrive pas à retenir les mots de passe, hein, comme Andréane, donc je suis obligé d'avoir. J'ai 3 voûtes de mot de passe, puis j'ai les vraiment sensibles, ceux que je vais utiliser tous les jours, puis ceux très gouvernement, etc. Donc, je suis capable un peu de les splitter, puis c'est même pas les mêmes technos. C'est même pas les mêmes façons d'accès. Il y en a qui sont avec des YubiKey, il y en a qui c'est une passe-phrase, etc., etc. Donc, je fais des choses quand même qui sont des fois un peu hors du commun des mortels, là, sur cette partie-là. Mais on développe des réflexes. Puis en écoutant, je me dis, je suis en train de repasser vite tous mes contrôles ISO dans la tête. Puis je suis en train de me dire, je les fais-tu pas? Je suis en train de tous les faire. Là. Je les ai marqués sur une papier. Là. Oui, VPN, on en fait. Puis peut-être qu'on en aura dans la discussion, là, mais il y en a que je fais. Puis je me dis, il n'y a personne qui fait ça chez eux. Moi, j'ai segmenté mon réseau d'IoT avec le réseau d'IT. Une grande partie du monde qui ne fait jamais ça à la maison. Moi, ça m'amusait, puis je savais comment le faire. Donc, tu sais, il y a aussi cette notion-là de knowledge. Là. Si tu ne sais pas comment le faire, bah, c'est difficile de le placer, puis dès que tu as un peu de connaissances, puis on pourrait parler des patchings. Hein. J'ai pas de Windows chez nous, j'ai pas de Microsoft Windows. J'ai que soit des Mac, soit des Linux. Fait que j'ai d'autres types de problèmes, mais je traite différemment. Donc, on en fait, mais pas. J'aimerais en faire plus, surtout dans les conseils qu'on donne au quotidien, mais on a des réflexes quand même qui nous protègent. Et puis, je suis comme Vincent, puis peut-être un peu moins intense que Catherine, mais moi, mes informations, à un moment donné, c'était la mode des réseaux sociaux, puis de faire ça, puis je pense que ça y allait un peu trop rapidement ou trop facilement à essayer de faire du Facebook, à essayer de faire des... Mais maintenant, Facebook, je pense que j'ai l'âge pour utiliser Facebook maintenant. Celui qui a Pinterest encore, on peut se rejoindre sur Pinterest si jamais il y a encore des droits. Puis, mais il y a de l'information qui est partie, puis j'ai des photos de moi qui traînent un peu partout sur l'internet, plus que ce que j'aurais aimé. Mais voilà, ça arrive.
Moi, j'irais avec, je parlais de disponibilité tantôt, puis je vais vous donner un exemple. Ici, j'ai une YubiKey avec un AirTag dedans. Pourquoi j'ai fait ça? Mais parce que je trouvais jamais mes YubiKey parce que j'en ai trop, c'est trop compliqué. Donc, j'ai un petit étui à AirTag que je mets sur toutes mes YubiKey. Puis peut-être, j'ai pas nécessairement d'exemple précis à nommer, mais surtout s'il y en a qui nous écoutent, qui sont plus jeunes. Tous ceux qui ont, disons, 35 ans et plus, il n'y avait pas vraiment de réseaux sociaux avec les noms. Avec vos vrais noms, avec nos vrais noms. Tu sais, puis la quantité de choses qui s'est dites sur Internet, je sais pas, là, de 1995 à 2005, qui pourrait faire vraiment mal paraître des gens, est peut-être faramineuse, mais premièrement, le stockage coûtait beaucoup plus cher dans ce temps-là. Il y a moins de trucs qui étaient logués pour toujours. Puis, ils étaient moins liés directement à vos noms. Faites juste, oubliez pas le... On dit « OPSEC doesn't work retroactively ». Tu sais, vous pouvez faire attention pendant vraiment, vraiment longtemps, puis tout à coup, vous faites une erreur, puis ça vous va relier votre, que ce soit des gens qui font de la recherche comme Sam avec tes multiples comptes Twitter puis tout ça, tu t'échappes une fois puis oups, c'est relié à toi, tu peux pas rien faire par après. De là, dans l'idée d'en avoir plusieurs, que ce soit fragmenté puis tout ça, fait que donc dépendant du niveau de risque, parce que c'est certain, là, moi je peux dire que je m'en vais au café du coin puis y a pas personne qui va venir, j'ai pas des milliers de personnes.
J'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va venir, c'est ça?
J'ai plus maintenant, c'est fini.
Je lance une invitation, puis il n'y a personne qui est là, puis je suis juste comme...
Hey, tu peux pas dire ça, là, on est 8, là.
Ben, au café du coin, j'aurais pas cette chance-là, parce que des personnes qui sont là, il y en a pas tant qui sont proches de moi physiquement, réellement, pour faire ça.
C'est un bar, on aurait peut-être plus de chance, nous autres.
Donc, tout ça pour dire, je pense que les pires erreurs que j'ai fait à part, peut-être disponibilité, me locker out d'un truc, puis tout ça, c'est peut-être d'avoir trop de complexité. Tu sais, on parlait de Wi-Fi. Là, ici, mes voisins ne doivent pas comprendre ce qui se passe quand ils ouvrent leur menu de Wi-Fi. Il y a beaucoup trop de SSID dans le coin. Tu sais, méga segmenté, puis tout ça. Des fois, c'est compliqué. Là, tu achètes un nouveau truc, puis là, faut que je figure des règles de firewall pour faire marcher une nouvelle ampoule que j'ai achetée, puis tu te dis, pourquoi je me fais ça? Fait qu'il y a ça, mais sinon, les vraies pires choses, c'est vraiment plus au travail qu'à la maison, parce que, tu sais, en même temps, il y a plus de risques, il y a beaucoup plus de complexité, puis beaucoup plus de systèmes. Mais tu sais, je suis du genre à... J'expose rien sur Internet. Pourquoi? Parce que ça me tente pas d'être en voyage quelque part, être dans l'avion, pas avoir Internet, puis apprendre que, il y a un zero day sur PFSense, whatever, si t'as, je sais pas quoi, qui est exposé. Puis là, Grey Noise dit que c'est exploited in the wild. Puis là, je me dis, je suis pas capable de me connecter chez nous pour le patcher. Fait que j'expose rien, j'essaie de garder ça simple. Ça marche bien, mais côté réseau interne, disons, c'est peut-être des fois une petite affaire trop compliquée. Là, je vous mettrai au défi d'acheter comme un bidule IoT au hasard chez Best Buy. Puis je vous donnerai comme mot de passe Wi-Fi, puis de réussir à le faire marcher sur mon réseau, puis ça vous prendrait un bon 15-20 minutes. Ce qui n'est pas nécessairement cool.
Quelqu'un veut continuer?
Ouais, mais je vais continuer en termes d'anecdotes sur les mots de passe. Je suis un petit peu comme toi, Andréane. Moi, j'ai une méthodologie là, que je respecte pas toujours d'ailleurs. Mais en tout cas, ça m'a permis de me sauver la dernière fois. Je suis parti en France et puis j'étais un petit peu ric-rac pour prendre l'avion et j'ai oublié mon téléphone. Et sur mon téléphone, il y a mon password manager là et donc du coup, j'avais pas de téléphone. Donc il a fallu que j'arrive en France sans password manager pour récupérer tous mes mots de passe. Ben c'est assez galère de récupérer tout ça là. Donc j'ai quand même réussi à récupérer. Ça m'a nécessité d'acheter un nouveau téléphone, de remettre mon password manager là, puis de me servir des mots de passe que je savais d'avance. Hein, et après il a fallu reconstruire. Mais c'est furieusement la merde quand tu perds en fait tous tes mots de passe. Donc c'est pour ça le fait d'avoir un mot de passe simple, 8 caractères du style soleil 1, 2, 3 là, sur tous mes comptes, moi ça m'aide énormément.
Oui, puis non, hein, parce que tu sais quand même, moi il y a des mots de passe, je les mets puis je les stocke nulle part parce que c'est one time, puis j'ai oublié, puis je reviendrai dans les fameux sites là qu'Andréane dit, il faut donner toute notre vie à chaque fois qu'on veut faire n'importe quel site. Bah il y en a où effectivement, je stocke même pas le mot de passe, je génère une fois 20 caractères, je le mets dedans puis je vais chercher. Donc il y en a toute une partie. Peut-être s'en éviter. Par contre, effectivement, il y en a quelques-uns. Suite ta messagerie, suite ton compte de banque. Celui-là, tu peux pas faire « j'ai oublié mon mot de passe » parce que la banque, vous pouvez essayer, mais à mon avis, la banque, elle va pas vous redonner le mot de passe facilement.
Ça coince assez rapidement. Une autre anecdote hein, et qui m'a certainement tellement marqué que maintenant, je fais beaucoup, beaucoup de sauvegardes, c'est que dans mon jeune temps, quand j'étais à l'armée, j'ai fait une école d'informatique. Et il y avait, on apprenait, c'était sur des mainframes, hein. J'ai passé l'âge, je veux gris, etc. Là, c'était sur des mainframes, de vieux mainframes, et on apprenait à supprimer des fichiers. Et quand on apprenait à supprimer des fichiers, il fallait mettre tout le chemin, tu sais, du style le répertoire 1, le répertoire 2, le répertoire 3. Puis on avait 4, 5 répertoires comme ça. Donc on supprimait des fichiers. Et il n'y avait pas de sécurité à cette époque-là. Donc si tu faisais delete le premier répertoire, là, toute l'arborescence qui était en dessous, là, elle partait. Et le jour où on faisait ça, il y avait un examen pour tous les autres. Il y avait 200 personnes. passaient un examen et ils travaillaient sur du mainframe. Ils faisaient leur truc, ils développaient du programme et tout ça. Et Fournier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des lettres répertoire principal. Et tous les autres répertoires ont été supprimés. Donc, du coup, je pense que ça m'a assez marqué parce que je suis sorti dans le couloir tout affolé, etc. Manque d'air, là. Et en fait, ouais, ils ont été obligés de refaire la totalité des examens. Et je me suis fait convoquer par le colonel à l'époque. Et j'ai les poumons qui ont gonflé un petit peu. Je me suis pris une soufflante, pas à peu près. Donc, depuis cette époque-là, les sauvegardes, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Donc oui, deuxième anecdote qui est, qui explique comme quoi c'est hyper important.
Ça t'a marqué, hein? T'en as fait une carrière. La continuité.
Ouais, ben écoute, il a inventé le chaos engineering là, bien avant que ça soit un buzzword.
Mm-hmm. Le précurseur.
J'imagine que c'était pas de ça que tu parlais, Andréane, tantôt, là, mais quand j'étais médecin, j'avais moi aussi un algorithme pour les mots de passe. Parce que quand t'arrivais la première journée au CLSC, le tech, il te donnait comme mot de passe les trois, c'est comme ton nom de famille, les trois lettres, nom de prénom, trois lettres, puis 01. Fait que c'était Arsam 01. Puis le système était vraiment chiant parce que à toutes les deux ou trois semaines, fait que tu changes ton mot de passe. Puis c'était tout le temps au moment où t'arrivais comme avec une pile de dossiers, 14 papiers roses de patients qu'il fallait que tu rappelles à la maison, puis tu sais, des gens qui te crient après parce qu'ils t'attendent, puis tout ça. Fait que là, faut que tu changes ton mot de passe. Fait que là, c'était Arsam 02, c'est le prochain. Puis là, il y avait comme une règle qui faisait que tu ne pouvais pas répéter le mot de passe, mais j'avais appris à un moment donné qu'après, je pense, 10 fois, mais tu pouvais répéter celui de 10 avant. Fait que j'ai recyclé de Arsam 01 à Arsam 09 pendant 10 ans. Que j'ai juste fait la rotation pendant 10 ans. Puis un Obsecfeld qui m'a fait découvrir la sécurité, puis aimer ça. J'écoutais à l'époque, je pense que c'était le balado de Québec, là, les chiens de garde. Puis là, il parlait des sites de leak. Puis là, je suis comme, ah, on va aller regarder ça. Puis, je vais rentrer mon courriel, mon vieux Hotmail ou je sais pas trop. Puis là, je vois mon mot de passe que je trouvais bien brillant, là, en clair. Puis là, je suis comme, ah oui, OK. Et donc, après ça, j'ai comme appris à utiliser des meilleurs mots de passe et tout ça. Là. Fait qu'on peut aussi apprendre, je pense, de nos erreurs. Mais c'est ça. L'obsèque, comme dans le système de la santé, c'était pas super terrible. Là. Je veux dire, on, à un moment donné, essayait d'avoir que chacun utilisait son compte. Mais tu sais, les docteurs, ça aime pas ça suivre les règles. Fait que ça... Tu voles tout le temps le compte de quelqu'un d'autre pour faire ce que tu as à faire parce que c'est important ce que tu as à faire, comme streamer Sons of Anarchy la nuit à l'hôpital. Là,
on parle beaucoup de sécurité numérique. Là. Est-ce que dans la sécurité physique, je suis encore dans mes chapitres ISO, hop, je repars qu'une de la partie ISO. La sécurité physique, est-ce que vous faites attention dans votre obsèque dans la partie sécurité physique à barrer 12 fois les portes de chez vous, à barrer l'auto, à mettre le laptop, attacher le laptop avec un cadenas à quelque part?
Ben, je peux dire que ça serait vraiment, vraiment une malchance que quelqu'un défonce mon auto puis trouve quelque chose dedans. C'est vraiment, vraiment rare que je laisse quelque chose dans l'auto là, à part... 25 cents. T'sais, je laisse jamais un laptop dans l'auto. Même des fois à l'hôtel, j'ai de la misère. Puis je me pose toujours aussi la question, est-ce que c'est plus dangereux si j'ai mon passeport dans mes poches ou à l'hôtel? Puis dépendant de la soirée prévue, dans quelle ville, puis tout ça, ben là, la réponse va varier. T'sais, mais ouais, quand même assez attention. Mais des fois, on n'est pas réveillé, on pense pas à la bonne chose, puis on fait des erreurs vraiment niaiseuses. Comme par exemple, je m'étais fait voler un vélo de montagne, quand même beau. Je l'ai retrouvé. Je l'ai revolé avec la facture dans ma poche, avec le numéro de série au cas où quelqu'un appelait la police parce que je suis allé vraiment voler un vélo sur le balcon devant une maison. Je reviens chez nous, puis quelques semaines plus tard, en plein milieu de la journée, mon chien jappe. Puis tu sais, au lieu de regarder dehors, je dis au chien d'arrêter de japper. Mais oui, je me suis fait voler le même vélo deux fois. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste une question de... Tu sais, on parlait de phishing tantôt, ben tu te réveilles le lundi matin, t'as 32 000 emails, t'as un meeting dans 4 minutes, les updates Windows veulent s'installer, ben là, oups, tu cliques sur la mauvaise chose. Mais la même chose peut arriver dans le monde de la sécurité physique, que ce soit laisser rentrer quelqu'un parce que tu penses que tu l'as déjà vu avant ou parce que tu penses que tu veux les bangs qu'il apporte, puis tout ça, fait que ça varie. On n'est pas toujours réveillé de façon égale.
Oh, mais on sait tous qu'il ne faut pas le faire, hein. Mais encore une fois...
Personne ne veut être la personne qui dit... Non, t'as les mains pleines, mais sors ta badge, sors. T'sais, comme tout le monde veut être poli, tout le monde veut être sympathique. Le peer pressure.
Oui.
Ouais, c'est pour ça, moi, quand j'approche toujours ces situations-là, plutôt que de l'approcher de façon négative, j'essaie de l'approcher autrement. C'est peut-être là, une déformation professionnelle parce que je suis aussi gestionnaire de mon condo, là. Puis quand les gens font ça, tu sais, je vais leur demander s'ils ont besoin d'aide. Tu sais, j'essaie de tourner la question. Même chose pour les tourniquets, là, puis les badges. J'essaie de tourner ça. Je trouve ça intéressant, tous les commentaires aussi sur les voyages. Je pense que tout le monde se pose les mêmes questions sur « je garde-tu mon passeport ou pas? » Moi, sincèrement, mon laptop, je vais le mettre... S'il y a un coffre-fort, là, je vais le mettre dans le coffre-fort. Mais honnêtement, mon laptop, il n'y a rien vraiment de... Il y a mes impôts, des trucs comme ça. Donc, évidemment, mon NAS, etc. Mais mon ordinateur est encrypté, est chiffré. Quand je vais passer les douanes, je vais souvent bloquer mon téléphone pour pas que l'agent puisse me prendre mon téléphone puis l'ouvrir avec mon visage, etc. Donc, je prends des mesures peut-être un peu extrêmes par rapport à ça. Mais je trouve ça intéressant. Les Wi-Fi, par exemple, les Wi-Fi gratuits, je vais utiliser les Wi-Fi gratuits à des endroits que je... Pas que j'ai confiance, là, mais que je me dis c'est moins pire. Tu sais, mettons un Starbucks, je vais me dire c'est moins pire. L'hôtel, je sais que l'hôtel, c'est très mauvais.
Qu'est-ce que moins pire? J'aimerais avoir une définition ici, ben, parce que je suis pas sûr qu'on l'a tous à la même place.
C'est le bon Wi-Fi, weed.
C'est I got you, là. C'est, tu sais, je vais pas me connecter dessus, là. Tu sais,
moi, je vois ça comme challenge accepted.
Ouais, c'est ça. Tu sais, je vais regarder les noms, là, mais tu sais, si par exemple, je m'en vais à l'aéroport de Montréal, par exemple, ben, je vais le truster peut-être un peu plus que si je suis dans un aéroport à l'étranger que je connais pas. Puis...
Tu sais, quand tu regardes, si quelqu'un regardait ce qui se passe sur les Wi-Fi dans les aéroports puis tout ça, je pense que vraiment plus problématique que les VPN que tout le monde se fait dire d'installer parce que, bon, l'industrie de YouTube au complet ferait faillite s'il n'y avait plus NordVPN. Il y a beaucoup de monde qui n'ont pas de coupe-feu sur leur laptop, que ce soit même juste le truc de base de Windows. Fait que le plus gros problème, c'est vraiment comme, ah, il y a des partages SMB exposés avec aucune authentification.
Pas de
ça, c'est vraiment plus grave que les histoires de VPN. Oui. Puis dans les hôtels, des fois, t'as même pas besoin de activement chercher. Tu fais juste comme browse network, puis tu vois un paquet de laptops quand les hôtels font pas l'isolation, le host isolation.
Dans le train, c'est comme ça, là. C'est pour ceux qui ont fait
parler du train. Je veux pas parler du train, je parlerai pas du train.
Mais c'est un exemple,
par exemple, mais c'est un état violent. C'est ça l'affaire, c'est que
il n'y
a pas de cochon à vendre par-dessus, fait que c'est pas intéressant, c'est pas profitable à parler. Puis c'est même le truc de coffre-fort dans l'hôtel, tu sais, comme une personne normale, est-ce que c'est vraiment un enjeu? Si on parlait aussi des passbooks plutôt, je me souviens tellement souvent là, des postes de gars en IT qui sont comme vraiment condescendants, genre, je peux pas croire que les gens utilisent ça, puis qui postent ça vraiment comme agressif, puis dans le fond, ma grand-mère, Yvonne, là, elle va pas se servir de mon password, là, on va être honnête entre vous et moi, là. Puis il y aura pas un espion qui va se glisser chez elle pour fouiller ses tiroirs pour trouver son passbook, là.
Non.
C'est la façon la plus sécuritaire qu'elle a d'avoir un mot de passe. Puis si jamais il arrive quelque chose, ben, on peut accéder aux photos puis les trucs, la famille, tu sais, il y a comme de quoi qui est laissé derrière. Puis pareil, tu sais, est-ce que tu... Tu sais, si t'es un journaliste en train d'enquêter dans un pays étranger sur genre, je sais pas, genre de la des trucs gouvernementaux de haut niveau, peut-être que tu laisses pas ton laptop dans le coffre-fort de l'hôtel, mais tu sais, si t'es un touriste avec un ordinateur chiffré qui est verrouillé, est-ce que les risques sont les mêmes, tu sais?
Le livre de mots de passe, en passant, là, c'est quand même un assez bon truc. Si vous passez des gens en entrevue puis que vous voulez trouver ceux qui sont pas vraiment capables de contextualiser le risque, là, vous dites... ta tante utilise un mot de passe qui est écrit dans un calepin. Qu'est-ce que tu lui dis? Vous allez pouvoir filtrer du monde, là. Bang, 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 bang. C'est incroyable, ça marche. Puis je dirais, ce qui est vraiment
mais
plus...
Je suis curieux de savoir comment tu les filtres. Je veux dire, c'est dépendamment... Mettons, la réponse, c'est oui, c'est
quoi? Si quelqu'un me dit là, que son grand-père, qui reste toujours à la maison, qui ne va jamais nulle part, le fait que son mot de passe Yahoo soit écrit sur un carnet qui est dans son tiroir, ouais. C'est grave quand tu dis... Ouais, ce qui va y arriver, c'est qu'il va réutiliser patate 1, 2, 3 comme mot de passe, puis quelqu'un en Russie va se loguer dans son compte. Il n'y a pas personne qui va rentrer chez eux. Fait que, tu vois, les gens qui sont pas nécessairement capables de penser au vrai risque. Puis moi, pour le commun des mortels, le vrai risque que je vois me fait paniquer. Je me dis, si je travaillais pas là-dedans, qu'est-ce que je ferais? C'est si mon téléphone ou mon laptop brisait puis qu'il fallait que je l'amène dans un magasin genre chez Best Buy, je ne truste pas ces fuckers-là parce que non, c'est en français. Le CRTC a dit qu'on peut sacrer en français, en anglais sur des émissions en français et vice-versa. Ça, c'est
un fait. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y aura jamais de commandite Best Buy sur ce balado. Sorry, Nicolas Louis.
Mais non, c'est ça, on est définitivement pas brought to you by Geek Squad. Il y a eu plein de cas où les gens fouillent dans les photos des tout le monde. Oui. Puis je me dis, s'il y avait quelqu'un dans ma famille qui me disait « j'ai apporté mon ordinateur chez Geek Squad », autre, là, je veux pas viser eux nécessairement, je me dirais, OK, il faut faire du incident response, comme tout est compromis, là, pour changer nos noms, là.
Autopsie.
Puis ça, on n'en parle pas très souvent, alors que, le password book, c'est vraiment niaiseux, t'as écrit tes mots de passe. OK, mais faites peut-être juste l'aider avant qu'elle amène son ordi avec Windows 7 à quelqu'un creepy qui va aller fouiller dedans, là. Fait que rant over.
Mais c'est super valide parce que j'avais un ami, puis je vais pas le nommer pour pas qu'il soit dans le trouble, mais il travaille dans une petite shop justement, dans un petit village. Ils sont deux personnes derrière le comptoir à réparer les ordinateurs de tout le monde. Puis ce qu'il me disait, c'est que son boss, c'était le plus méga creep person du monde. Puis que essentiellement, il s'était parti de cette shop-là pour fouiller les ordinateurs du monde. C'était ça, sa game. Puis comme il faisait allègrement, puis il encourageait son employé à le faire avec lui.
On l'imagine pas. Hein. Il y a toujours un principe. Quand c'est des 0 et des 1 du numérique, des fois, on se déconnecte. On dit, bon, c'est que des 0 et des 1. Mais en vrai, quand c'est ça, c'est une vraie intrusion. C'est comme si quelqu'un est venu chez toi, dans tes affaires. Là. Donc, c'est très...
Aux États-Unis, même, je pense que c'était le FBI qui donnait des bonus à des employés de ces magasins-là pour aller fouiller, pour trouver des cas de crime, tu sais. Fait que c'est quand même intense.
Ah, comme genre du child porn ou des choses comme ça?
Ouais, c'est ça. Il disait, mais on va te payer quand t'en trouves. Fait qu'évidemment, les gens faisaient pas juste tomber dessus par hasard. Ils fouillaient, tu sais.
Ouais.
Ils fouillaient dans tout le monde, partout, systématiquement. Là, ouais, pour
sans
un
mandat,
petit 20 piastres,
sans mandat, sans rien. C'est encore limite en termes de validation.
Ils pas besoin de mandat.
C'est ça. Ouais, mais est-ce que c'est valable? Ben après, il faut un avocat autour
de ça. Le Geek Squad n'est pas une vraie squad.
Non.
On a compris. Mais tu vois, je pense que en étant un peu dans le domaine, on est capable de faire des analyses de risque un peu plus rapidement que la moyenne des gens, tu sais, pour notre vie personnelle. C'est la question de je mets le laptop avec, je l'emmène avec moi au restaurant ou je le laisse dans le coffre-fort de l'hôtel. Tu sais, on est capable tout de suite dans sa tête de dire OK, le coffre-fort, parce qu'on sait que les coffres-forts, il y a forcément une petite astuce pour pouvoir l'ouvrir. Hein? On le sait.
Je soumets un chose là-dessus parce que, tu sais, il y en a beaucoup qui parlent, qui font des affaires extraordinaires, mais dans le réel, on n'est pas si bon que ça à faire ce genre de choses-là. On fait plein d'erreurs parce que nos angles morts sont énormes. Puis c'est vaste, la cybersécurité. Là, tu parlais des ISO tantôt. T'es probablement le seul qui doit maîtriser ISO ici, là, parce que je pense que personne, parce que moi, je me pose pas les questions, toutes les questions ISO à chaque fois que je fais un geste.
Moi non plus.
À ce moment-là, je me retrouve toujours dans un contexte où c'est sûr qu'il y a quelque chose que je vais rater à un moment donné. C'est sûr. Puis là, on parlait de l'hôtel, mais tu sais, on sait que le coffre de l'hôtel, c'est de la merde, là. T'sais, j'ai le personnel de l'hôtel est capable de l'ouvrir. Ça protège de je sais pas quoi. C'est un coffre d'hôtel est fait pour protéger contre les gens de l'hôtel. Les gens de l'hôtel sont capables de l'ouvrir. Donc, on est comme dans un drôle de situation, somme toute. Là. Mais on n'est pas tant bon. Moi, je trouve pas qu'on est tant bon que ça. Je pense qu'on s'invente un mérite qu'on n'a pas tout à fait. Là.
Ouais. Tu sais, il y a des réflexes qu'on a et qu'on n'aurait pas naturellement. On va faire attention, on est capable de, surtout en sécurité physique, là, on se dit ah ben là le cadenas il sert à rien, ça fait là.
Je suis plutôt pas d'accord pour moi, du coup je sais pas si je l'avais déjà compté, puis bon là désolé, j'ai eu une légère panne internet, j'ai dû changer le laptop, il voulait pas se reconnecter, bon j'ai l'air fou, c'est ça, ceci dit je me suis reconnecté, mais si je reviens sur le sujet, ça m'est déjà arrivé, jamais juste comme ça. C'est pas tout à fait moi, c'était peut-être mon clone, d'aller faire un souper chez ou mon frère, c'était moi. Tu sais, tu vois un souper chez le beau-parent, puis là, tu arrives avec ton laptop du bureau, et dans du train, et dans l'auto, puis tu dis c'est beau, puis là, tu dis, hey, on s'en va au Best Buy. Quel auto tu penses qu'on a pris? Ben, le mien. Penses-tu que j'ai oublié mon laptop qui est en arrière? Je m'en suis souvenu quand je suis arrivé à mon auto puis la fenêtre était brisée. Et pourtant, je travaillais en cybersécurité.
Ça aurait pu être pire, t'aurais pu le donner au Best Buy.
J'aurais pu le donner au Best Buy. Sauf qu'on a vu le monde courir avec les. Tu sais, tout ce comme.
Est-ce qu'il était chiffré, puis est-ce que ça t'a stressé, tu sais, à part le fait que, bon, mon auto est pété, puis il faut que j'achète un laptop.
Ça m'a pas stressé pour cinq cents.
C'est ça, parce que les données,
c'est pas vrai. C'est, à l'époque, là, on remonte le plus de 15 ans, de cette histoire-là, et plus. C'était pas très coutume dans certaines organisations de chiffrer les portables. Où ce que je travaillais, dans la semaine juste avant, je m'étais battu avec le département, mettons, avec mon gestionnaire de l'époque, à dire, ce serait peut-être une bonne idée de commencer à chiffrer les laptops. Là, on a tout eu l'impression que j'avais framé le vol, là, mais la réponse, c'est la réponse, ça m'est vraiment arrivé. Là, mais j'étais pas stressé parce que dessus, j'avais rien vraiment. T'sais. Sauf que, mettons, si ça aurait été, je travaille, je sais pas, aux finances ou au marketing ou peu importe quoi, ou dans un projet spécial, j'aurais peut-être plus paniqué.
Fait, est-ce que la sécurité physique, c'est de la cybersécurité?
Là, t'amènes un débat intense, là. Là, tu fais de lancer une grenade dans la conversation. Okay. Alors,
il y a tout un chapitre dans ISO 27000 ans sur ça, hein, donc oui.
Mais non, mais si tu te fais voler ton laptop, il n'y en a aucun problème si ta cybersécurité était on point. Dans le fond, ce n'est pas un incident de cybersécurité.
C'est un incident de sécurité.
Ben, mais ouais, je fais une parenthèse. On point sur ça, en tout cas, c'est un grand défi. Parce que si on parlait vraiment du... Ça dépend ce que tu utilises, encore une fois. Puis ça dépend de la motivation en arrière. Puis ça dépend bien des choses, parce que des cryptos portables avec les outils de Microsoft aujourd'hui, il semblerait que ceux qui sont bons là-dedans, c'est facile. Moi, je suis pas capable de le faire. Mais...
Ben, c'est parce que ça dépend. Il y a beaucoup de compagnies qui veulent juste cocher la petite boîte puis dire oui, c'est chiffré. Mais ça boot automatiquement. Donc, toutes les clés sont dedans. Donc, tu as un bug de TPM, que ce soit plus vraiment chiffré. Alors que il y a 15-20 ans, oui, c'est vrai, on le faisait pas souvent, mais quand on le faisait en général, c'est avec un mot de passe qui était séparé du reste.
Faut une carte pour booter la machine.
Une carte que tout le monde laisse dans le même sac, le laptop, ça, c'est vraiment pratique.
Ça, faut faire attention. Il y a des méthodologies qui sont on top off.
Parce que là, si on parle de sécurité physique, je suis vraiment moins saine d'esprit là-dessus. Là. C'est peut-être mon background en criminologie qui a fait que je suis obsédée, là, mais... On est loin de mon attitude vraiment cool sur la cybersécurité. Je dors pas la nuit là, parce que je pense qu'il y a du monde qui va rentrer chez nous alors que ça m'est jamais arrivé. Là, mais pour mon ordinateur, mes ordinateurs puis toutes mes choses, mettons que je veux pas me faire voler, ils sont cachés dans une pièce qui est cachée dans une pièce qui est cachée dans une pièce qui est camouflée. Là, que c'est tout. Je suis vraiment très sécuritaire dans ces trucs-là.
T'as une pièce secrète, là, genre t'as comme la bibliothèque en arrière de toi, on la expose puis à l'eau sur d'autres choses.
Un livre qui s'ouvre.
C'est le Sec Ops for Dummies jaune, là.
Les quoi?
Le livre for Dummies jaune en arrière, c'est la Switch qui ouvre la bibliothèque.
C'est ça. C'est un appel à l'aide. Fait que dans le fond, mes laptops sont tout le temps cachés, même quand je vais juste à la poste au coin de la rue, OK, puis je barre ma porte, évidemment. Mais il y a aussi des faux laptops qui traînent dans ma maison comme ça. Le voleur, il est genre nice, j'ai trouvé le laptop, je peux quitter.
Tu les as pris au IKEA ou?
Obsédé. Non, mais c'est genre des vieux laptops qui n'ont rien dessus que genre
m'emmène. OK, je pensais vraiment des faux laptops.
Ah non, c'est un vrai laptop, mais qui marche plus. Genre, l'écran marche plus. Puis il y a plein de.
Je suis désolé, Andréane, moi qui me pensais fou avec trois voûtes de mot de passe, là, je pense que...
C'est ça. Mais là, moi, j'ai dit que c'était cool parce qu'on parlait de cybersécurité. Là, c'est vous, là, maintenant, qui parlez de sécurité physique. Partez-moi pas là-dessus.
Mais dans les faits, c'est un continuum parce que là, tu sais, puis là, je vais sûrement choquer bien des gens. Pour moi, on peut pas dissocier la sécurité ou la sûreté ou peu importe comme on le sait. C'est tout parce que si on n'a pas de sécurité physique, la sécurité logique, elle vaut rien. Fait qu'on est vraiment dans un ensemble. Fait que dès lors, pour moi, si on n'a pas un, on n'a pas l'autre. Là. Fait que tu sais. Encore là, chacun nos moments étranges. Moi, j'ai des caméras chez nous. Là. J'ai des caméras à l'extérieur, j'ai des choses comme ça. Fait que moi aussi, j'ai des éléments. Mais je cache pas, j'ai pas une bibliothèque qui
non, c'est
j'ai pas... non mais imagine cool, mais... ouais je trouve ça cool quand même franchement ouais,
j'imagine le plan dans ma tête c'est comme un fractal les pièces dans les pièces dans les pièces dans les pièces
c'est ouais j'ai tout pensé à ça ça a pris du temps là. En magasinant la maison, j'ai fait « Est-ce que c'est possible de faire ça? » Oui, t'achètes cette maison.
La meilleure manière, je pense, d'essayer de penser à physique versus cybersécurité, disponibilité, confidentialité, c'est essayer de vous imaginer les gens là, qui ont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'argent en crypto-monnaie. Okay, j'ai 50 millions en crypto-monnaie. Ah, je ne veux pas la laisser dans un wallet qui est en ligne parce que c'est sûr qu'ils vont se faire hacker. Je vais pas les laisser sur mon ordinateur, je vais me faire voler, mais en même temps, faut pas que je les laisse à un endroit où ils vont brûler si ma maison passe au feu ou qu'un voleur qui rentre chez nous le trouve dans un livre dans ma bibliothèque en arrière de moi. Tu sais. Fait quand tu veux que jamais pouvoir perdre cette information-là, la perdre ou jamais t'a faire voler, là, ça devient vraiment, vraiment difficile. Là. Même puis on parle pas des grosses quantités d'informations, c'est une clé.
Ça a l'air stressant, je sais pas. Il doit avoir des meilleurs banques.
Je serais pas un bon criminel, tu sais.
Mais la crypto-monnaie, c'est comme avoir de l'argent en cash. Hein? Fait que, tu sais, si j'avais 50 millions cash dans ma maison, je serais aussi nerveux que d'avoir 50 millions en crypto-monnaie. Là. Ce serait le même niveau. Là.
Mais il y a une chose
sauf que 50 millions en cash, ça prend de l'espace.
Tu risques pas de le jeter par accident au dépotoir comme une sorte de personne.
C'est déjà arrivé, il me semble. Quelqu'un en Angleterre qui a acheté son laptop.
Qui essaie d'acheter le dépotoir au complet en ce moment pour. Je suis activement sur mes aventures avec ça, je trouve ça fascinant. Pauvre monsieur.
Mais il y a dans l'actualité aussi là, ceux qui se font la famille proche de certains qui ont des wallets qui se font kidnapper ou tentative de kidnapping, là, etc. Tu sais, je suis bien content d'avoir que 40 $ en crypto, moi, ça me va bien. Hein.
Content d'être pauvre.
Le truc, c'est d'être pas connu puis pauvre.
C'est ça.
Fait qu'on est, on essaie.
Exactement.
Pour vivre heureux, c'est ça, là. Aïe, aïe.
Mais c'est une bonne gestion de risque. Si tu fais rien, tu restes chez vous puis tu bouges pas puis tu fais juste scroller sur quoi, je sais pas quoi. Aller des livres, c'est correct.
Ouais, mais c'est ça. Tu sais, quand on parle de risque, sortir de chez vous, ça prend un risque. Rester chez vous, ça prend un risque aussi. Donc, à un moment donné, il faut faire quelque chose dans la vie. Là.
Mais c'est donc, une discussion un peu parallèle. Là, puis, peut-être hors sujet, dites-moi là, mais j'étais, mettons, dans la belle famille dernièrement. Puis, ma belle-sœur, on venait de croisière, toute l'équipe. Je dis, on s'est rebooké une croisière l'année prochaine. La compagnie m'a dit, ouais, mais là, avec tout ce qui se passe socialement, puis Trump, puis toute l'équipe, puis t'as peur. Peur de quoi? C'est dans ma tête, c'est ben, de réserver si jamais pour X raison, il y a une pandémie, il y a une, je sais pas trop quoi, tu peux plus y aller, tu peux plus rentrer aux États-Unis, donc on peut aller au port, que tu veux partir. Est-ce qu'il est rendu là? Tu sais, je veux dire, pour moi, c'est comme, c'est dans un an, là, d'ici un an, tout peut arriver, je peux mourir si quoi. Fait que c'est comme, je m'empêcherai pas de vivre pour ça. Mais ça, c'est dans un contexte de voyage, mais je pense que j'ai la même attitude dans bien des niaiseries avec mes mesures de sécurité moi-même, comme mettre un laptop dans un en auto. Non, mais.
Dans une auto.
J'ai manqué un petit bout tantôt, là, désolé, mais tu sais, c'est la même chose en voyage. Tu sais, je veux dire, j'arrive en croisière, ma première journée, j'ai mon sac, mon passeport, là, j'ai un gun dedans, là, pour être sûr. Puis, 3-4 jours après, je pense que le sac traîne sur le bord de la piscine avec le passeport dedans. Fait que qu'est-ce qui fait ça?
Mais ça, le concept de sécurité fatigue, je pense que c'est un autre truc qui est intéressant à aborder là, pour la plupart des gens. C'est qu'à un moment donné, s'il y a trop de conseils à suivre, puis ça devient overwhelming, puis il y a trop de trucs à penser, d'un, je me sens que 3/4 d'entre nous, on a comme. Parce que moi, je sais que l'Internet a franchement affecté ma capacité d'attention à long terme. J'ai pas la capacité d'attention de mettre autant d'étapes. La patience, le fait que le monde va vite, faut bouger, faut faire plus de trucs. On n'a pas besoin d'attendre 15 secondes de plus notre code SMS pour déconnecter notre truc. Mais c'est que ça peut devenir tellement overwhelming, puis on donne tellement de conseils, puis on fait tellement peur à plein de choses que les gens font juste. Ça sert à rien. Il arrivera ce qui arrivera, puis il passe à autre chose. Ouais. Puis on se tire tout un peu dans le pied à ce niveau-là. T'sais, on n'aide personne. Si on est là à raconter des histoires de boogeyman un peu là, par rapport à des menaces quasi imaginaires qui ne s'appliquent pas au modèle de menace de la plupart des gens.
Les maudites choses d'acceptation de cookies. T'sais, tu parles d'une menace imaginaire qui est frustrante pour tout le monde. T'sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui va prendre le temps de personnaliser mes affaires de... Non, non, moi, ouais, je veux accéder à l'information.
C'est le one thing que je fais parce que j'ai travaillé en marketing, right? Je l'ai vu, le dark side, je l'ai vu à quoi ça sert, c'est cookie, là. Puis ça, ça m'a traumatisé. Fait que ça, je prends le temps.
Ouais, le SEO, Search Engine Optimization, qui est l'opposé du OPSEC, comme tu disais au début, ça, je trouve que c'est vraiment vrai. Mais c'est clair que la plupart des gens vont juste cliquer à travers, mais tu sais... Bon, il y a un paquet de lois qui ont mené à tout ça, puis au final, ça donne rien parce que il y a des dark patterns, puis tout le monde clique à travers. Mais c'est clair que quand on a trop de conseils, à un moment donné, ça marche plus. Tu sais, comme tu devrais pas utiliser SMS 2FA, tu pourrais te faire voler ta carte SIM et ta. Ah, mais il y a 3 mois, j'utilisais pas encore de two-factor. Tu sais, je viens juste de commencer à l'utiliser. Puis là, un TOTP, ça peut se faire ficher. Je devrais pas prendre ça. Puis tu sais, c'est toujours, on déplace le but. Puis pour quelqu'un qui fait pas juste comme vivre là-dedans non-stop, c'est sûr que c'est, ça doit être épuisant, là, tu sais.
L'idée, c'est de craquer un peu là-bas, mais pas de la craquer en mode NASA. Puis d'avoir tout, oui, on rêverait d'avoir, pas tout factor, mais multifactor, la position GPS, double, quelqu'un qui vérifie, puis on est sûr d'être sûr. Mais à un moment donné, il faut avoir... Qui c'est qui dit ça? C'est Emeline qui parlait, qui disait la saine paranoïa. Il faut être paranoïaque, mais sain d'esprit. C'est un peu les deux opposés, là, mais de trouver la bonne dose juste pour assez. Dire, OK, là, juste assez. Et Catherine a raison, la fatigue, effectivement, quand tu rentres 4 fois ton mot de passe, puis que la plateforme te le redemande une 5e fois, puis que tu as envie de le changer, tu mets patate 1, 2, 3 parce que tu es tanné.
Il y a plein d'interfaces qui mènent les gens à faire ça. Là, que ça soit macOS qui est rendu presque comme Windows Vista à l'époque. À chaque fois que tu fais quelque chose, il te demande ton mot de passe. Il va y avoir quelque chose qui va te demander ton mot de passe. Tu vas taper ton mot de passe. Fait que je pense que tout le monde qui travaille en sécurité, il faut penser à l'expérience utilisateur plus que la perfection au niveau de la sécurité, parce que sinon, ça joue contre nous. Là.
Mais je pense que la technologie aide quand même à avoir des bonnes pratiques, des bonnes hygiènes. Tu parles de macOS, mais oui, dans le monde Apple, il y a une voûte de mots de passe qui est intégrée dans le téléphone. Le chiffrement, il est quasiment sur tous les nouveaux devices que tu achètes par défaut. Il y a plein de choses qui sont déjà mises en place où tu n'es pas obligé de faire des efforts.
Oui, mais tu vois déjà ce que tu es en train de dire là, mais je peux te dire oui, mais iCloud, tes backups sont pas chiffrés.
OK.
Puis là, faut que tu mettes le advanced truc parce que par défaut, le advanced machin truc, il n'est pas à on. Puis tu sais, c'est toujours comme une chose qui manque. Là,
mais deux pas de backup à backup.
T'as pas de backup par défaut non plus. By the way, t'as 5 gigs gratuits. Fait que déjà, faut convaincre les gens de tu devrais payer mensuellement. Ah là, tu peux prendre des backups. Ah là, tes backups sont pas chiffrés en passant. Fait que tu sais, je trouve qu'il y a presque personne qui a des bons default settings dans l'industrie. Puis tu sais, les fournisseurs cloud, c'est la même chose. Pourquoi on a une industrie? Pourquoi Wiz vaut 32 milliards à se connecter sur des API d'Amazon pour dire hop, ton RDS Postgres est exposé à Internet? Mmh. C'est comme... donc, je pense qu'on a pas mal de chemin à faire, mais t'as raison que ça s'améliore vraiment beaucoup comparé
à... Je te trouve vraiment dur à soir. Franchement, j'ai essayé d'avoir un peu de lumière dans cette technologie envahissante.
Non, mais on a plein de trucs positifs.
T'as raison, il y a toujours mieux. Alors après, je fais un petit coup d'ISO. Hein, on implémente l'amélioration continue, au moins.
t'es juste comme positif, là, si on veut en parler. TLS, Google dit que c'est 99% des connexions sur Chrome qui sont maintenant chiffrées. 99% à travers le monde. On a les passkeys, c'est un peu mélangeant, mais ça commence à s'améliorer. Le déploiement du two-factor en entreprise commence à être assez bon que dans bien des cas, c'est plus facile maintenant de trouver une vulnérabilité dans un edge device, là, comme on dit, un Ivanti ou... autre fortinette de ce monde que de faire du phishing parce que les gens sont rendus quand même assez bons en two-factor. Il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, c'est comme je ne vais pas chercher un zero day dans un concentrateur VPN alors que je peux juste faire un phishing super simple. De ce côté-là, il y a vraiment pas mal d'améliorations.
Ah, ça va, c'est bon. J'ai la lumière dans le cœur.
On revient toujours.
Fait que l'important, vas-y. Oui.
Non, ben vas-y.
Non, j'allais juste dire, l'important, finalement, la conclusion, c'est de juste se poser la question, c'est quoi le danger? essayer de comprendre finalement c'est quoi le danger de comme se connecter au Wi-Fi public. On n'est plus en 1990, là. C'est pas si dangereux de se connecter à un Wi-Fi public. Là, ça l'a déjà été, là, ça l'est vraiment moins. Puis, tu sais, la plupart des sites, c'est pas 95% des sites, je pense, la vraie stat qui utilise le HTTPS. On est pas mal bon. Mais moi, ce que Vincent disait tantôt, ça me faisait encore, ben, ça me faisait plus peur qu'autre chose parce que tu dis, au Starbucks, c'est beau, j'ai confiance, mais pas, mettons, dans un autre petit café. Mais, tu sais, mettons que tu ouvres la liste des Wi-Fi disponibles dans un Starbucks, là, puis là, tu vois Starbucks, puis tu pèses dessus, là. T'as bien plus de chances que quelqu'un aille juste écrit Starbucks, puis c'est soit fait un réseau qui s'appelle comme ça, puis qui t'a eu avec ça, que si t'as vraiment vérifié dans ton petit café, c'était quoi le vrai Wi-Fi avec le vrai mot de passe, t'sais. Fait que c'est bien plus dangereux finalement.
Mais de toute façon, si ton laptop ne survit pas au Starbucks, il ne pourra pas survivre à l'hôtel, etc. Puis je trouve le plus drôle d'exemple de ça, c'est les conférences de sécurité, surtout DEF CON. Ah, avant d'aller à DEF CON, il faut que tu ailles 3 burners, 14 4 SIM, au moins 3 voûtes de mots de passe, Dominique, au moins. Puis au final, c'est un réseau où tout le monde sniffe ce qui se passe. Si tu as vraiment un téléphone Android ou iOS qui est up-to-date, penses-tu que juste pour faire une joke, quelqu'un va utiliser un Zero Day qui vaut 1 million à l'endroit au monde où ce qu'il y a le plus de chances d'avoir quelqu'un qui va faire un petit packet capture puis te le voler puis le rapporter à Apple pour un bug bounty? Mais on dirait que c'est comme, je sais pas, là, en sécurité, ah, nous autres, on est toutes meilleures que les autres, puis toi, tu vas à DEF CON, t'amènes ton téléphone, moi, j'amène un Sharp Zorus de 1998 avec une version rebuildée d'AIX, je suis plus tough que toi. Tu sais, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, là. Genre de machismo à outrance. Là.
Mais n'empêche que, dans la fois que je suis allé au DEF CON, je me suis retrouvé à me déplacer. Mon GPS me renvoyait un peu partout aux États-Unis. Là. Fait, il y a ça aussi, il y a des éléments comme ça. C'est sûr que c'est un playground qui est drôle. Faut être plus prudent. Là. J'enverrais pas mes parents avec leur téléphone au DEF CON. Mais cela étant dit, étant à jour et en faisant moindrement attention, on n'est pas capable. Puis ça revient un peu, puis un peu ce qu'ils disent, c'est. Puis, je pense que c'est H.D. Moore, au Nordic, qui le disait. En tant qu'industrie, on n'est pas bon pour aider les gens normaux à faire quelque chose avec les choses. Tu sais, là, on est des experts. On a déjà des ratés chacun, puis on explique nos enfants de la misère. Puis on est des experts dans un domaine qui est relatif à la sécurité. Imaginez, genre, nos parents. Puis même mes enfants, des fois, ça passe pas bien vers le bas non plus, les explications. T'essaies, puis il y a beaucoup de résistance à ces pratiques-là. Ils ont une voûte de mots de passe, puis c'est le plus loin que j'étais capable de me rendre avec eux autres. Là.
Fait, est-ce qu'ils mettent des mots de passe dedans?
Oui.
Okay. Le même. C'est le même mot de passe.
le truc, je vais divulguer mon truc pour favoriser l'adoption, c'est que les mots de passe de Netflix et Disney Plus sont dedans. S'ils veulent avoir accès, il faut qu'ils aient accès à la voûte. Donc, fait, je les ai obligés quand même de créer un effet attractif pour les inciter à y aller. Parce que sinon, sinon j'avais rien.
Fais-tu une rotation des mots de passe pour les motiver à y retourner?
Oui.
Ce qui ne sait pas, c'est que ses parents sacrent à toutes les soirs pour aller sur Netflix.
Ouais. Mais.
Non, change pas. Ouais, en tout cas, bref, oui.
Mais c'est une habitude. C'est une habitude à donner parce qu'une fois qu'on a l'habitude d'utiliser ça, ben ça devient un peu naturel. Tu sais, ça devient encore une fois quand tu cliques et puis que tu as cliqué le chiffrement par défaut, une fois que c'est fait, tu vas pas te poser la question tous les matins. Tu sais, il y a quand même c'est le plus difficile, c'est de faire le premier pas puis de se dire ok, ça devient une routine où je comprends pourquoi je le fais puis après ça rentre dans le quotidien. Mais c'est vrai que les premiers temps. Moi, j'ai fait de l'admin système il y a très longtemps. Je pense que le user password, c'était le même nom. Jusqu'à ce qu'on se fasse défoncer un serveur, puis on dit « Ok, on n'est pas bon ». Puis on met ses règles au fur et à mesure. Puis,
Mais tu sais, il y a encore des sites qui bloquent le copy-paste des mots de passe ou même s'ils ne font pas par exprès que le autofill va vraiment mal marcher. Donc, même quelqu'un qui sert d'un gestionnaire de mots de passe qui a ces 10 premiers trucs dedans, OK? T'as aidé quelqu'un, t'as mis son compte Netflix, son compte Apple, son compte Facebook. Il va arriver sur un site d'une banque X, puis là, ça marche pas, ben là, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre patate 1, 2, 3 comme mot de passe. Fait que si vous nous écoutez, puis votre site marche pas avec les mots de passe, les password managers, ben faites stop, puis allez arranger ça.
C'est quelqu'un chez Crave. Crave, sur les Smart TV, faut rentrer le mot de passe manuellement, puis c'est, ça m'est déjà arrivé de pas écouter Crave pendant 3 mois parce que j'avais pas le courage de rentrer.
Mon auto, c'est pareil. Pourquoi tu me mets pas un code QR que je puisse me loguer? Qui veut rentrer son mot de passe de 64 caractères sur un touchscreen d'auto, là?
Crave, c'est Canada. Il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute. Please. You're the please. Oh my God.
Mais en fait, moi, c'est comme les gens que j'aime pas. Je les raye de mon calendrier. Je les raye de mon carnet de contact, là. C'est trop compliqué à parler avec toi. Je vais plus sur ton site web, là. Je le fais plus. Je trouve une autre façon.
Mais j'allais dire, est-ce que j'utilise un peu toutes ces expériences-là pour identifier les bons citoyens versus les moins bons citoyens, je vais dire, sur le réseau, là, tu sais. Je
n'ai pas de compagnie, là,
pour pas me mettre à dos personne, là, mais tu sais, tu vas aller sur un site, par exemple, puis là, ils accepteront pas là, que tes cookies sont bloqués. Ils accepteront pas que tu es sur un VPN. Tu sais, là, il faut tout que tu désactives ta sécurité pour aller sur leur site web. Fait que là, c'est pour ça, moi, entre autres, que j'utilise des différents navigateurs pour en fonction des sites web. Puis c'est pas des sites spéciaux nécessairement, là, ou avec des trucs flous, là. Je veux juste m'acheter. Encore là, j'ai dit que je voulais pas nommer de compagnie, fait que je vais m'éviter parce que je t'ai dit c'est quoi, tout le monde va faire genre ouais, c'est eux. C'est
ben, je vais en nommer une de façon positive là, après avoir blasté Best Buy à fond.
Et
Sony. Ouais, Sony. Enfin, je vous remercie de rappeler. De toutes les compagnies qui supportent les passkeys, je m'attendais vraiment pas à ça, mais Sony, c'est une des seuls que j'ai trouvé là, dans le monde, disons, consommateur, qui permet d'utiliser juste des passkeys, donc pas d'autres méthodes plus faibles, puis maintenant d'enlever les cartes de crédit puis de payer avec Apple Pay. Cependant, le processus de recouvrement pour quelqu'un qui perd sa passkey est extrêmement compliqué. Fait que là, ils sont un peu en train d'y goûter de... On a voulu fournir l'option la plus safe, puis enlever les backdoors, si on veut. Puis là, des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Là. Comme j'ai vu des threads, c'est comme je me suis fait demander le numéro de série de mon PlayStation 2 que j'ai acheté en 1999. Là, des choses comme vraiment, vraiment intenses. Mais de tous les sites que j'ai utilisés avec des passkeys, c'est Sony qui sort en premier. Puis tu sais, si on se souvient, Sony...
Ben, c'est ça, j'allais dire.
C'est quand même coup sur coup.
Est-ce que tu penses que c'est relié à leur mauvaise expérience?
C'est certain parce qu'ils ont fait Apple Pay sur un PlayStation. C'est un peu bizarre, tu sais, mais... T'es sur ton PlayStation, ça te met un code QR, tu payes avec ton téléphone. Ils se sont fait voler un méchant paquet de cartes de crédit. Qu'est-ce que ça leur donne de faire ça? C'est de la tokenization gratuite. C'est des trucs qui peuvent plus perdre. Fait que je suis certain qu'on voit, tu sais, ils ont eu pas mal de problèmes. Puis là, je pense qu'ils sont rendus comme au top. Fait que s'il y en avait plus comme ça, ça serait.
Ouais, ben, ça veut dire que sont comme moi, sont réactifs. Ils font des backups avant de pouvoir souffrir. Ils mettent du YubiKey après, on aura des tentatives d'attaque, là. Fait, vraiment, on n'est pas, c'est pas top, là. Si ils copient moi, c'est pas bon, là.
Ouais, mais en même temps, la première chose qu'ils se sont fait voler, c'est des cartes de crédit. Puis, tu sais, à cause de PCI DSS, il y a tellement de budget qui va protéger ça. Mais honnêtement, on s'en sac-tu d'un numéro de carte de crédit? Tu peux le changer, là, tu sais.
Ouais, ça, c'est bien quelque chose d'absurde. Puis, tu sais, tant qu'à parler de choses absurdes, c'est comme les NAS. Pourquoi on fait encore autant de sparages avec les NAS? Rayez ça des systèmes. Rendez ça que ça n'a aucune valeur pour qu'on
juste
arrête de...
Notez qu'on parle de numéro d'assurance sociale et pas de Network Attached Storage dont on parlait tantôt.
Bon, mais oui, effectivement, justement, si on peut de réduire ça, parce que, tu sais, dans l'absolu, là, un NAS, c'est un numéro de dossier au revenu. C'est tout. C'est comme un numéro de dossier chez Bell Canada. C'est comme un numéro de dossier chez Best Buy. Mais c'est un numéro, ça demeure un numéro de dossier qui n'a pas de valeur intrinsèque plus que d'être un numéro de dossier. Là, le fait qu'on lui a donné de la valeur, là, il faudrait se poser des questions sérieuses. Puis là, on est en 2025. Là, on n'est pas en 1952. Là, je pense qu'on a les moyens, les technologies dans les mains pour faire quelque chose de mieux. Puis ben, là, c'est-à-dire...
Positif encore. Post Canada. Identité Plus, Identity Plus de Post Canada, qui permet de se créer une identité vérifiée avec des cartes d'identité gouvernementales, puis après ça, d'attester à cette identité-là pour te loguer un peu partout. Il n'y a presque rien qui supporte, même, je pense même au niveau du gouvernement fédéral, il n'y a pas beaucoup de support encore pour ça. Je ne savais pas que ça existait. Ça existe, puis c'est cool. Puis il supporte même de vérifier ton identité en personne. T'sais, si jamais tes documents sont pas assez bons, t'as pas une assez bonne caméra sur ton téléphone. Puis les compagnies privées peuvent même faire appel à ça. Comme par exemple, si vous avez un processus, vous engagez des employés remote, vous n'êtes pas capable de vérifier leur identité comme il faut à travers Zoom. Là, hein, voici mon permis de conduire. Oui, c'est beau. Vous pouvez l'envoyer dans un bureau de poste de Poste Canada. Il y a des API. Vous pouvez intégrer ça à vos systèmes. C'est super innovateur. Ils ont ça depuis peut-être 5 ans. Il n'y a presque personne qui sait que ça existe. Mais fait que bon, tu vois, Dominique, là, ouais. Il y a plein de trucs positifs. Là.
Serais-tu comme le quatrième facteur, finalement?
Nice.
Oh my God, référence obscure à un certain podcast.
Oui. Hein?
mais oui, mais il existe des choses comme ça, mais sont sous-utilisées. T'sais, on va préférer parler justement des Nord-Coréens qui font des fausses emplois. Puis ensuite, on a des bons moyens comme ce que tu mentionnes qui sont sous-utilisés. Là, on a comme un problème de logique dans ce qu'on fait. Parce qu'on a les moyens. T'sais, le Pasquier, ça fait quand même un bon bout de temps que ça existe. On a de belles technologies dans les mains. Facile d'utilisation, c'est très important. Mais ça demeure...
Pasquier, par exemple, c'est facile du côté usager. Puis c'est cool. Tu peux le faire avec soit ton téléphone, soit avec un YubiKey. Il y a plein de choses qui peuvent le faire. C'est quand même sympathique à utiliser. Par contre, du côté développeur, je suis pas certain que toutes les bibliothèques soient disponibles puis que ce soit super facile pour les développeurs pour le faire.
Ouais. Le problème, c'est le contrôle, puis c'est surtout aussi les gens, des fois, savent même pas où ils ont mis leur passkey. Parce que autant Google que Apple que Microsoft veulent avoir tes passkeys. Microsoft vend pas de téléphone. Ouais. Fait que là, c'est compliqué. Puis j'ai vu beaucoup de cas où les gens, comme je suis plus capable de me loguer dans tel truc. Je me loguais, je sais pas, je prenais une photo avec mon téléphone, tu sais, whatever, mais OK, c'était-tu dans iCloud ou c'était dans ton 1Password ou c'était quoi? Fait que ça accroche un peu. Puis côté entreprise, c'est Google Workspace, par exemple. C'est Google Workspace, c'est pas un petit truc fait au coin de la rue. Il permet pas de bloquer les passkeys qui se synchronisent. Puis il est pratiquement pas capable de faire la différence entre une clé de sécurité hardware ou une passkey qui synchronise comme sur iCloud. Fait que, tu sais, il y a encore comme plein de... Ça accroche, mais un an ou deux, ça va commencer à être pas mal mieux. Puis, tu sais, honnêtement, là, pour l'histoire des Nord-Coréens, les banques sont obligées de faire des vérifications sur les clients depuis super longtemps à cause du blanchiment d'argent. Mais ces mêmes banques-là pouvaient engager des employés qui, eux, étaient à distance et passaient même pas à travers le même niveau de vérification. Fait que la personne qui veut un compte de banque est plus vérifiée que la personne qui écrit le code qui roule le compte de banque.
Ah, on vit pas comme ça un peu, ce qu'il y avait Doge aux États-Unis, je crois, qui est un peu dans le même pattern. Just saying.
Sur Québec aussi, hein, t'as la même problématique, hein, entre un contrôle pour les consultants versus le personnel. Donc là aussi, il y a des enjeux qui se jouent plus sur la sécurité physique là, que sur la sécurité vraiment informatique. Hein. Bon, c'est pas des Nord-Coréens non plus.
Heureusement, là, mais en tout cas, dans le climat actuel, là, on n'aura pas besoin d'être un Nord-Coréen pour que ce soit problématique au Québec là, pour ce genre d'emploi-là, mettons que...
En passant, il y en a de ces Nord-Coréens qui sont très bons dans leur job. Ça fait quand même peur. C'est ça qui est drôle, ça qui est intéressant. Puis ils font appel à des équipes, tu sais. Donc, ils sont vraiment très efficaces puis ils ont toujours un spécialiste de chaque technologie. Puis je sais, on en a parlé un peu dans les médias, puis il y a des gens qui pensent peut-être que c'est juste les compagnies de sécurité ou c'est juste les compagnies de crypto-monnaie, mais c'est vraiment, vraiment plus répandu qu'on pense. Là, t'sais, juste moi-même, j'étais en contact avec plusieurs cas similaires dans la dernière année. Fait que si vous engagez des gens à distance, là, en passant, méthode très, très, très facile, faites une entrevue en personne, puis vous n'aurez pas besoin de technologie super avancée. Quoique, si c'est un avion, ça reste super avancé, là, mais. C'est quand même facile, puis ça coûte un billet au lieu de mettre en place un système complet.
Ouais, puis ça aussi, des fois, les systèmes complexes sont peut-être trop complexes aussi pour ce qu'on fait. Là, on est peut-être trop dans le numérique, puis c'est un peu là, ça vient rejoindre un petit peu le point d'Andréane qui, elle, est plus attachée au volet physique parce qu'il y a peut-être juste ça de vrai dans l'absolu là, que la sécurité physique. Je vais terminer avec une dernière question, puis ça fait un lien, puis Sam et Kat l'ont déjà eu. SignalGate. Oui. On parle de gestion de risque personnel. On parle du fait que, bon, certaines personnes ont clairement une mauvaise façon d'utiliser ce signal. La question, c'est pas si le signal est bon ou un mauvais protocole, c'est un très bon protocole. Par ailleurs, on ne contrôle pas qui est l'autre bout de la ligne. Puis c'est le problème avec Signal. Et c'est là que ça a été démontré. C'est là que malheureusement, les dirigeants aux États-Unis ont démontré que tu peux pas faire confiance. Il faut que tu fasses attention que si tu peux pas laisser n'importe qui, inviter n'importe qui dans une rencontre, dans un groupe, parce que tu peux te retrouver avec des journalistes, comme on a avec nous d'ailleurs ce soir. On a invité par hasard un journaliste qui écoute tes choses et qui va aller écrire dans The Atlantic. Mais
ça l'est tendu. De Sam.
Ouais. On l'a invité par hasard, c'est une erreur. Non, c'est, il va l'écrire, il va tout nous dénoncer demain. Mais plus sérieusement, ça est un exemple d'usage de communication personnelle qui est présumé sécuritaire. Puis le mot sécuritaire veut dire à peu près tout et n'importe quoi d'ailleurs. C'est bien d'ailleurs un énorme problème. Comment on fait pour vivre avec cet état de fait-là qu'on a un protocole qui véhicule de façon sécuritaire, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe à l'autre bout. Je sais que Guillaume, t'aimes bien ce sujet-là parce que j'ai fait référence à toi d'ailleurs.
Ben oui, je pense que des fois, je suis assez motivé, mais je vais laisser d'autres personnes répondre en premier. Là, quand il y a des silences, j'ai tendance à faire le Kool-Aid Man, faire « Oh yeah! » Mais là, pour une fois, pour la dernière question, j'aimerais mieux laisser aux autres.
Toi, je suis en train de rallumer mon cellulaire, puis je regarde le nombre de messageries. Je pense que je les ai à peu près toutes.
Mais tu sais, je pense que... je pense que l'erreur que les gens font, puis on parlait tantôt des VPN, puis tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, la sécurité, c'est important, j'ai acheté un VPN. » Ou tu sais, je me suis payé un VPN. Tu es comme « OK, mais ça règle. » Tu peux faire des... Tu sais, tu peux cliquer sur un lien de phishing avec ton VPN. Là, ça va pas t'empêcher de cliquer sur quoi que ce soit. Puis je pense que c'est vraiment la... En tout cas, cette fois-ci, là, c'est pas la faute des médias, ça va être votre faute de pas avoir bien expliqué à quoi servent les différents outils. Tu sais, comme... T'sais, Signal, c'est très bon pour le chiffrement de bout en bout, fait que c'est très bon pour pas que des gens t'écoutent pendant que le message, il se promène, mais une fois qu'il est rendu sur ton ordinateur, Signal sert plus à rien. Ou sur ton téléphone, plutôt. Là. Si quelqu'un a accès à ton téléphone, puis ton code, puis garde de lire tes messages, que t'aies Signal ou que tu utilises...
Tu dis téléphone, t'as dit ordinateur avant, il y a beaucoup de monde qui ont Signal sur leur ordinateur maintenant, puis c'est pire que ça. Moi-même, là, j'ai des gens avec qui j'ai des discussions sur Signal assez souvent que je me rends compte qu'ils utilisent Beeper ou je sais pas quoi pour harmoniser tous leurs messages dans une seule app, que ça roule sur leur Mac mini puis que ça l'envoie dans un cloud. Fait que, tu sais, vous savez pas c'est quoi le client de l'autre personne. T'sais, c'est comme on dit iMessage, c'est sécuritaire. Ouais, oui, mais les backups de la plupart des gens sur iMessage sont en clear text. Donc, tu sais, on n'a aucune garantie sur la personne qui est à l'autre bout. Mais je pense, par exemple, il y a une chose qui... Tu sais, on regarde, mettons, Slack au travail. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient juste se dire autour de la machine à café qui maintenant se ramasse sur Slack. Là, c'est des poursuites, c'est logué, c'est archivé, tout ça. Fait que je pense qu'on a vraiment une quantité d'informations sensibles qui est exposée vraiment plus qu'avant. Puis des fois, ça peut être des discussions. Avant d'avoir décidé de faire quelque chose, on devrait-tu faire ça, on devrait-tu faire ça? Normalement, on l'aurait fait verbalement. Mais là, si ça sort dans les médias à un moment donné, ils ont considéré faire telle affaire. Mais oui, mais cinq minutes après, on a trouvé que c'était niaiseux et on ne l'a pas fait. Mais parce que maintenant, c'est fait par écrit, ça a tendance à sortir. Fait que. Puis je pense par email, c'est moins pire. Par email, c'est comme un peu plus formel, on va faire un peu plus attention. Mais des fois, sur Slack, c'est plus comme c'est juste un instant messenger comme mon bon vieux ICQ 2000, là, tu sais, mais faut faire attention. Oh, nice! Tu l'as bien.
Vintage. Et une des choses aussi par rapport à ça, c'est une notion de sécurité physique. Peut-être que d'utiliser ton téléphone à pleine luminosité dans le champ de vision du photographe qui est déjà un petit peu en train d'essayer de coincer à cause d'une catastrophe précédente impliquant Signal, c'est pas une bonne idée. Puis probablement que genre un petit filtre de confidentialité aurait évité le chapitre 2 complet de cette histoire-là. Là.
Oui, mais le chapitre 2, il n'y a pas juste du négatif pour eux, parce qu'une des choses qui se faisait reprocher, c'est qu'ils utilisent Signal pour pas archiver leurs conversations. Puis là, nous utilisons TM Signal qui archive nos conversations puis qui les protège pas, ça c'est un autre problème.
Mais finalement, ils peuvent plus rien faire.
Ils les envoient au Mossad en même temps.
Ouais. Si c'était juste ça.
Ouais. Il y a peut-être une mauvaise utilisation des différents outils et des différents canaux de communication. Ouais. Il y en a qui sont plus complexes que d'autres. Là. Je ne sais pas s'il y en a. Vous avez déjà utilisé Olvid qui.
J'allais attendre que tu fasses ton français de service puis tu allais sortir sur Olvid.
Attends, hop, Je me recoiffe. Attends, je mets la... Hop, voilà. Et oui, all vide. C'est super cool comme messagerie. Il faut valider la personne de l'autre côté. Par contre, tu fais ça une fois, puis quand t'as trop d'amis, ça marche plus. Tu sais, c'est trop contraignant. C'est comme dans le temps, l'échange de clés PGP ou GPG, où il fallait tous se retrouver dans une salle, puis on se disait bonjour, puis on dit, hey, regarde, c'est bien moi la clé numéro machin, puis on s'échangeait les clés PGP. On fait plus ça aujourd'hui, là. Enfin, il y a personne qui est assez motivé pour faire ça, mis à part quelques crinqués ou quelques gens qui ont envie de faire des key cérémonies, mais je pense qu'on n'utilise pas forcément les outils dans le bon canal, dans le bon sens. On veut être ultra connecté, on veut que ça aille vite, puis on fait plus attention. Hein. Ça viendrait à personne de se dire dans un chat IRC, comme ça, ça trahit l'âge, hein, de raconter toute sa vie à tout le monde dans le chat IRC ou de balancer des informations personnelles avec son vrai nom. Alors tout le monde avait un nickname, avait... facile à découvrir quand même.
Mais finalement, tu penses se rencontrer en vrai de toute façon. Fait que, tu sais, ça revient, ça défaisait un peu le principe. Tu sais. Puis c'est un peu ce que Catherine disait dans le début, ou même le MySpace, puis ces choses-là. Ces époques-là, on était beaucoup plus désinvolte. Fait qu'à l'époque de IRC, les choses qui se disaient là-dessus, c'est probablement pire que ce qui se dit sur Slack à l'heure actuelle, parce qu'il y avait encore moins de filtres. On se sentait plus insulaire qu'on l'est à l'heure actuelle que par ce genre de choses-là. Mais l'aspect que les gens ont l'impression que Signal, c'est un bouclier contre tout, je pense que cette impression-là, elle était heureusement ou malheureusement défaite avec le Signal Gate. Mais les gens ont, je pense pas, une bonne compréhension de ce qui le vis-à-vis qu'ont l'autre côté. Là.
C'est un outil. Si tu utilises mal l'outil, tu peux mettre le chiffrement et puis si ta clé elle a que deux bits d'entropie, autant pas mettre de chiffrement. Hein? Ça revient à rien.
Ouais, mais donc pourquoi un outil de chiffrement te permettrait d'avoir une clé de deux bits? Pourquoi tu peux faire du TLS avec un cipher, no cipher? Il y a plein de trucs comme ça, c'est comme why?
Oui.
Ah, c'est un mode développeur.
Ah, mais ça existe. C'est bon, on a même pris la même clé privée pour tous nos certificats, comme ça, c'est plus facile si on le perd. Il y a plein d'erreurs qu'on pourrait faire. Et je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne souligne pas aussi, mais il y a quand même une complexité dans la technologie. On veut que ce soit simple, on veut que c'est la dictature du pouce, hein. On fait tout avec un seul pouce sur notre téléphone. Je pense qu'on veut que ce soit simple, mais dans le fond, ça reste quand même un peu complexe quand on veut creuser.
C'est vers ça que je m'en allais. En conclusion, je vous écoutais, là, puis il y avait de la nostalgie avec toutes les applications puis tout ça, là, mais la réalité, c'est que on est peut-être tellement disparates qu'au final, notre identité, nos informations sont... Oui, c'est sur notre appareil, mais au final, dans notre appareil, on a 150 applications différentes. Puis là, tout ça, c'est divisé de façon, je vais dire, un peu aléatoire. Puis peut-être que c'est ça qui nous protège, dans le fond, le fait qu'on est tellement dispersé que le risque est amoindri à cause de ça. Moi, je pense, comme je disais tantôt, moi, personnellement, j'essaie de garder ça le plus simple possible. Là. Je vous entends là, dire que vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, vous avez toutes les applications de messagerie, etc. Je ne suis pas dans cette réalité-là. Là. J'essaie plutôt de restreindre le plus possible. Là. Mais fait que j'ai peut-être une mauvaise lecture. Là, mais...
Une des choses que j'entends beaucoup quand on parle, c'est quand on parle de l'ennemi qu'on pense beaucoup dans notre tête, c'est comme le hacker qui veut voler nos informations, le fraudeur, etc. Mais j'ai l'impression qu'on ignore un peu le concept, ben, le danger au niveau de notre vie privée en général, de la manipulation dont on peut être victime en ligne via des publicités que c'est des compagnies légitimes, mais qui nous ciblent avec ce marketing-là puis ces données-là collectées. Puis je réfère un peu à justement la mention de « on s'en fout des cookies, on s'en fout chaque plateforme a des petites données ici et là, puis c'est pas grave », alors que dans les faits, ces plateformes-là, elles communiquent puis elles se vendent les données entre elles. Il y a tout l'enjeu des courtiers de données qui est très réel, qui est très concret, qui a des risques. Oui, tu sais, je me souviens un courtier de données qui avait reçu une amende parce qu'il avait vendu une liste qui était essentiellement nommée le senior vulnérable à une compagnie de fraude qui s'était servie d'une liste légitime d'informations qu'il avait achetées. pour ensuite frauder des gens qui avaient été identifiés par ces algorithmes-là comme étant simplement vulnérables. On peut penser à comment les forces de l'ordre, si on parlait, ils ont pas besoin, tu sais, le FBI, etc., ils ont pas besoin d'aller chercher des mandats quand ils peuvent juste aller payer pour l'information. C'est pas couvert par ces trucs-là. Fait qu'il y a comme toute cette donnée-là, cette partie-là qu'on a moins jasé aujourd'hui en termes de sécurité, qui pour moi est comme au quotidien une menace beaucoup plus grande puis importante que le fraudeur potentiel qui essaie de sneaker le, je sais pas, qui essaie de voler mon compte Netflix, là, je m'en fous essentiellement là, que quelqu'un se connecte à mon compte Netflix à distance. Honnêtement, s'il me kick à bord de ma plateforme, il pourrait s'en servir de mon troisième compte vide de Netflix, je m'en fous. Mais c'est ce vol de nos données-là, cette utilisation-là un peu malicieuse, si on veut, mais qui est légale, je pense que c'est une plus grande menace qu'on n'a pas pour le adressé aujourd'hui.
Je pense que faire un stage dans une compagnie de publicité en ligne pour bien du monde qui travaille dans un domaine technologique, ça serait assez épeurant. Tu sais, les systèmes d'enchères en temps réel, puis tout ça, tu sais, c'est pas pour rien que les gens pensent que leur téléphone les écoute, mais c'est juste parce qu'il y a tellement de données qu'en réalité, c'est vraiment pire que ça.
Je fais encore des cauchemars des fichiers Excel auxquels j'ai eu accès en tant que comme stagiaire à l'époque. Là, c'était comme incroyable la quantité de données que j'avais, puis tu sais, les intentions de qu'est-ce qu'on peut tirer comme insight pour mener le consommateur moyen, un consommateur extrême de X produits qui est pas bon pour la santé. T'sais. Ce genre de truc-là, c'est horrible. Tu sais, comme oui, effectivement.
Ça ferait tout un débat. Est-ce qu'on est condamné à se faire manipuler comme ça, ou est-ce qu'on peut avoir les neurones qui se touchent puis se dire wow, arrête de me faire ça, je veux même pas regarder ta publicité. Ouais, c'est ça, je me dis à un moment donné on sera condamné puis on pourra même plus choisir par nous-mêmes. Scénario apocalyptique de on est des zombies.
Ça me fait ça un peu d'internet.
Ouais, c'est ça.
C'est un retour de balancier.
C'est toi qui disais qu'il faut brûler chaque ordinateur qu'on utilise, puis à chaque utilisation pour ça.
C'est ce que je fais.
Mais il faut aussi brûler chaque entreprise avec laquelle on a fait affaire.
Ça va être compliqué.
Question de foutre le bordel.
C'est un peu extrême comme solution, mais dis de même.
C'est comme un one-time pad, mais commercial.
Puis c'est sur ça que je vais conclure. Je trouve ça très intéressant qu'on a bouclé à la fin que sur l'évaluation de la menace. Et ce qui, je me serais attendu qu'il réapparaît avant ça dans la conversation, parce que le réel, c'est on peut faire ce qu'on veut, mais ça dépend toujours de la menace à qui on veut se protéger. Et si on la connaît pas, on la maîtrise pas, nos gestes peuvent être inutiles. Et c'est là où on donne de mauvais conseils d'ailleurs, parce que, puis moi, c'est la première question que de point de vue professionnel, puis je me le pose aussi. Quand quelqu'un dit « Oui, je veux acheter un VPN », dit « Oui, mais de quoi t'as peur? » Et après ça, là, on dérive la conversation vers quelque chose généralement de plus utile et d'aller comme ça. Fait que je vous laisse le mot de la fin.
Adresse de même.
C'est quand même un beau mot de la fin.
C'est un très beau mot de la fin. bonne fête! Bon 600e!
Bon 600e, oui!
Moi, je dis, ça, c'est clair, c'est un gros bravo à Nicolas. Et puis d'avoir réuni tous ces gens-là tard le soir. Ah non, ça va, il n'est pas si tard.
On se reparle au 1200e.
C'est tout un défi.
Merci énormément de votre collaboration, de vous être rendu disponible pour ça, pour cette conversation qui a été très amusante et justement, ça l'a amené un peu dans des zones très intéressantes dans lesquelles on a pu partager des choses drôles et dans lesquelles j'espère qu'ils vont faire réfléchir les professionnels et leur famille. Et au moins leur famille autour d'eux autres.
Merci beaucoup.
Merci à tous. Un vrai plaisir. À bientôt. Bye bye.